À nous deux. Allez, ouvre la bouche.
Tiens, c'est nouveau.
Ça se mange, ça?
Qu'est-ce que c'est?
Non, mais c'est quoi, cette horreur?
Elle, c'est des goûts. Elle est là pour empêcher Riley de s'empoisonner.
La couleur m'inspire pas, c'est pas top au niveau de la forme, attendez. C'est des brocolis!
Berk! Riley, finis ton assiette ou tu seras privé de dessert.
Quoi? Pas de dessert, donc? Eh ben, tu l'auras voulu, on va te la finir, ton assiette. Mais c'est surtout toi qui va déguster!
On va déguster en version grand format. Bonjour à toutes et tous, je suis ravi de vous retrouver. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h pour une émission dont vous connaissez désormais la recette. Du savoir, des saveurs et de la bonne humeur. Que nous dit la science sur le goût? C'est la question passionnante que l'on abordera dans la première partie de cette émission avec le neurobiologiste Gabriel Lépouzé. Notre invité nous fera part des dernières découvertes de la biologie moléculaire pour nous aider à mieux comprendre nos perceptions gustatives et sensorielles. Il se pourrait même, amis auditeurs, qu'après cette émission, vous ne dégustiez plus un vin ou une fraise de la même manière. Et puis dans la deuxième partie de cette émission, comment réussir de vraies pâtes à l'italienne? C'est un défi que nous relevons aujourd'hui avec notre experte Alessandra Pierini. À la clé, des recettes simples, bon marché, authentiquement transalpines. Et promis, on arrête de mettre de la crème dans la carbonara et du parmesan sur nos pâtes aux palourdes. Si vous avez, amis auditeurs, des trucs ou des recettes de pâtes à nous confier, si vous avez aussi des questions sur le goût à notre scientifique, faites-nous signe au 01 45 24 7000. Bianca et Théo attendent vos appels au standard. Vous pouvez aussi réagir sur le bouton intervenir sur l'appli mobile de France Inter. Je suis enchanté de passer ces deux heures en direct en compagnie d'Elvira Masson et Dominique Hutin, les deux chroniqueurs historiques de l'émission, mais aussi avec trois voix amies de France Inter, Vincent Josse pour sa lecture gourmande, la séance de cinéma gourmande Laurent Delmas, et puis il y aura Mathieu Conquet aussi avec ses accords mets et musique. Tous les contenus de notre émission, infos, recettes, podcasts sont à retrouver sur franceinter.fr à la page On va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Pour commencer cette émission, Elvira se fait la porte-voix d'une initiative solidaire. Bonjour Elvira.
Bonjour François-Régis, bonjour à tous.
Le département de la Seine-Saint-Denis a été durement touché par le Covid-19, on le sait, et on n'ignore pas non plus à quel point les conditions de vie, concentration de population, mal logement, faible accès aux soins et mauvaise alimentation, ont été responsables de cette situation catastrophique. Il y a quelqu'un qui est particulièrement sensibilisé à cette situation. Nous sommes allés lui rendre visite ensemble cette semaine.
Oui, il s'agit d'Olivier Darnay, artiste plasticien qu'on a connu, nous, comme apiculteur urbain. On lui doit notamment le fameux miel béton, produit, comme son nom l'indique, en ville, partout où c'est possible, quoi. Avec son parti poétique, il pilote un lieu emblématique à Saint-Denis, où nous étions ensemble, en effet, qui s'appelle Zone Sensible. C'est la dernière ferme maraîchère du 19e siècle qui existe encore aux portes de Paris. Alors il faut imaginer un havre vert au cœur du béton, à 500 mètres du métro, une terre d'un hectare cultivée en permaculture, où poussent des légumes qui pour partie servaient jusqu'à présent à faire des paniers vendus localement en vente directe, et qui fournit également des tables parisiennes prestigieuses de type Plaza Athénée, mais aussi quelques bistrots qu'on aime bien. Zone Sensible a décidé d'offrir la totalité de sa production aux familles fragilisées du territoire entre Saint-Denis, Pierrefitte-sur-Seine et Stain, et livre ainsi depuis une dizaine de jours, chaque semaine, 8 structures locales engagées dans des actions d'aide alimentaire. Alors, les livraisons se font à vélo afin de boucler la boucle d'une production zéro carbone. Olivier Darnay et son équipe cherchent actuellement des moyens financiers afin de maintenir cette action le plus longtemps possible. Il leur faudrait concrètement 20 000 euros pour la poursuivre jusqu'à la fin de l'année. Et ainsi, je cite Olivier, « contribuer à notre échelle à l'urgence de réduire les inégalités dans nos assiettes et dans la vie. Dans tous les métiers, créons une solidarité pandémique. »
Oui, très bien dit, de la part d'Olivier Darnay, que nous avons rencontré ensemble. Alors pour les infos, pour aider, pour suivre les actions de Zone Sensible, ce havre de culture et de nature que vous décriviez aux portes de Paris, eh bien vous pouvez retrouver toutes ces infos sur franceinter.fr à la page On va déguster. Merci beaucoup Elvira et on vous retrouve tout au long de cette émission.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure. On va déguster. XXL a été préparé par Nadia Chougui à distance, réalisé par Laurent Thomas en direct avec à la technique Mathias Saléon et Alix Barrois. Maud Ventura nous aide à la coordonner cette émission. Dans un instant, le goût déchiffré, disséqué, décrypté par un neurobiologiste gastronome. Mais en attendant, tous les goûts sont dans ma nature. D'Étienne Dao et Jacques Dutronc, un choix de l'ami Djoubaka. Bonne journée sur France Inter.
Certains
Certains l'aiment tout, certains l'aiment tard. Certains l'aiment chaud, d'autres tartare. Le plaisir n'a pas de mesure. Tous les goûts sont dans ma nature. Tous les goûts sont dans la nature. Certains recto, d'autres pétards. Certains verso, d'autres sagittaires. Le plaisir n'a pas de censure. Toutes les tendances sont dans ma nature. Tous les goûts sont dans la nature. Certains l'aiment pour avec Icar. Certains plumeaux, d'autres hochets d'art. Faut pas faire de littérature. Tout est écrit dans ma nature. Tous les goûts sont dans la nature. Certains autos, certains motards. Certains métros, d'autres moutards. Le plaisir n'a pas de figure. Toutes les formes sont dans ma nature. Tous les goûts sont dans ma nature. Certains l'aiment fou, d'autres s'en fâchent. Certains bravo, d'autres bavards. Le plaisir n'est pas la luxure. Tous les goûts sont dans ma nature. Tous les goûts sont dans la nature. Certains l'aiment tout, certains l'aiment tard. Certains l'aiment chaud, d'autres tartare. Le plaisir n'a pas de mesure. Tous les goûts sont dans ma nature. Tous les goûts sont dans la nature. N'a pas de mesure. Tous les goûts sont dans ma nature. Tous les goûts sont dans la nature.
Le goût, c'est peut-être bien quand on le perd qu'on se rend compte à quel point il est nécessaire. Souvenez-vous, le grand critique gastronomique Charles Duchemin, incarné par Louis de Funès dans le film L'aile ou la cuisse de Claude Zidi, il en fait la douloureuse expérience.
On va déguster.
Gérard, j'ai perdu le goût.
Oh.
Je n'ai plus la notion de saveur. J'ai l'impression de mastiquer du coton et de boire de l'eau. Souviens-toi, je pouvais reconnaître tous les ingrédients d'un plat. Maintenant, plus rien. Qu'est-ce que j'ai, docteur? Je vous en prie, dites-le-moi.
Un gueusi.
Qui c'est ça?
En privatif, du grec gueusis, goût, diminution totale ou partielle du sens gustatif.
Comment peut-on perdre le goût? Que se passe-t-il dans notre bouche et notre cerveau quand on croque un aliment amer? Comment peut-on détecter le soyeux d'un vin? Et au fait, sommes-nous tous égaux devant le goût? Grâce au progrès de la science, on en sait un peu plus sur nos façons de percevoir les saveurs et les parfums. Gabriel Lépouzé, bonjour.
Bonjour François-Régis, bonjour à tous.
Vous êtes neurobiologiste, spécialiste de la perception sensorielle et de la plasticité du cerveau à l'Institut Pasteur à Paris. Vous enseignez dans cet Institut Pasteur, mais aussi à l'Université de Strasbourg et à l'Université de Montpellier. Vous avez aussi cofondé l'École du Nez, une formation neurosensorielle dédiée aux professionnels de la dégustation. On entendait la gueusie qui touchait le critique gastronomique de L'aile ou la cuisse. J'imagine que vous connaissez ce film.
Tout à fait.
Mais on a aussi beaucoup entendu dans l'actualité que cette perte de goût ainsi que la perte d'odorat qu'on nomme anosmie, c'est ça ?
Anosmie, tout à fait.
Comptait parmi les symptômes et les effets secondaires du Covid-19. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus dans l'état de nos connaissances actuellement du virus ?
Alors effectivement, chez les personnes qui sont atteintes du Covid et atteintes de manière attestée, il y a plusieurs études qui montrent que 50 à 70% des personnes développent des troubles de l'odorat, qui vont de la diminution du seuil de perception à carrément une anosmie totale, c'est une perte de l'odorat totale. Et c'est assez étonnant parce que c'est des proportions qui sont relativement importantes par rapport à d'autres infections virales du nez, comme le rhume par exemple. On n'a pas autant de symptômes d'anosmie. C'est même devenu un outil diagnostique pour diagnostiquer le Covid.
Ah oui, donc en fait c'est une proportion importante des contaminés, des malades du Covid-19, plus de la moitié, dites-vous, qui sont touchés effectivement par des problèmes de goût ou d'odorat. Par quel mécanisme la maladie touche ou impacte nos outils sensoriels? Pouvez-vous nous donner comme ça, nous expliquer scientifiquement ce qui se passe?
Alors d'abord, il faut donner une bonne nouvelle, c'est que ces symptômes sont réversibles.
Ah.
Les études montrent qu'en moyenne, les personnes retrouvent leurs facultés au bout de 8,5 jours.
Mmh.
Alors ce chiffre est un peu variable, mais en tout cas, les études aussi confirment qu'au bout d'un mois, 98% des personnes, quasiment la totalité, a retrouvé ses facultés. Donc vous voyez, c'est un symptôme qui est temporaire, qui peut être impressionnant, mais on retrouve ses facultés un petit peu aussi comme dans un rhume. Alors comment ça se passe? Pour ça, il faut se plonger dans notre cavité nasale un petit peu. Au fond de notre cavité nasale, si on remonte tout en haut, à peu près entre nos deux sourcils, c'est là que se trouve la muqueuse olfactive. La muqueuse olfactive, elle est composée de neurones olfactifs, et ces neurones olfactifs, c'est eux qui vont détecter la présence d'odeurs et d'arômes dans notre environnement, et qui vont transmettre cette information au cerveau. Et ces neurones-là, ils sont entourés de plein d'autres cellules qui les aident, qui les nourrissent, qui les protège, qui fabrique du mucus dans notre nez aussi. Et on pense aujourd'hui que ce sont ces cellules de soutien, celles qui sont autour des neurones, qui sont abîmées par le virus, qui sont ciblées par le virus. Et le virus aurait en fait une action sur ces cellules de soutien et altérerait du coup le bon fonctionnement du nez. Heureusement pour nous, notre muqueuse olfactive est dotée d'une faculté absolument essentielle, c'est qu'elle se répare continuellement. Et ça permet certainement de mener à la fin cette anosmie et de retrouver ses facultés.
C'est ça. Et l'autre bonne nouvelle, donc, c'est que on l'a déjà dit, où il y a eu des rumeurs pendant et en même temps, comme nos connaissances sur ce virus sont encore assez partielles.
Tout à fait. C'est un virus qu'on connaît depuis 3 mois, donc il faut.
Mais certains disaient qu'il touchait potentiellement le cerveau, ce qui n'est pas le cas, dites-vous.
En tout cas, les neurones olfactifs sont pas ciblés par le virus, donc le virus peut pas rentrer dans le cerveau par cette voie-là, c'est clair.
Vous nous avez parlé également alors du cas de la rhinite chronique avec une obstruction nasale qui nous ferait perdre également l'odorat ou une partie de notre goût. Est-ce qu'il y a d'autres circonstances ou d'autres accidents dans lesquels on peut perdre justement l'odorat ou le goût?
Tout à fait. Alors, par exemple, il faut savoir que notre nez, notre muqueuse olfactive, là, qui est en contact permanent avec le monde extérieur, il est aussi en contact permanent avec des toxines, des agents polluants, des bactéries, des virus, et toutes ces agressions quotidiennes peuvent endommager notre muqueuse.
C'est ça.
Et heureusement pour nous, d'ailleurs, elle se renouvelle justement pour aller à l'encontre de ça. Mais si on a une exposition forte à un composé toxique, on peut abîmer notre muqueuse. C'est exactement ce qui s'est passé, par exemple, à un grand chef 3 étoiles, Olivier Rollinger, que certainement les auditeurs connaissent, le grand pape des épices. Dans ses mémoires, Olivier raconte que quand il a juste avant d'ouvrir un restaurant Le Coquillage, il a fait beaucoup de travaux pour que ce soit impeccable avant de l'ouverture. Il a été exposé à des concentrations de solvants très fortes qui lui ont brûlé sa muqueuse. Et il s'est retrouvé anosmique du jour au lendemain.
Waouh.
Très dur pour un chef. Il raconte
c'est
comment
un peu
il
comme
a été
si un grand pianiste, si on lui coupait les mains en quelque sorte.
À peu de choses près, c'est ça. Il a dû continuer à travailler un peu par automatisme, en se basant sur son intuition, mais il pouvait plus se baser sur son nez.
C'est ça.
Et il a retrouvé l'odorat au bout de 5 mois. Et pour lui, c'était vraiment une résurrection. Là, on voit en fait, et on mesure que notre muqueuse olfactive, une fois qu'elle est endommagée, elle peut se réparer. Et cette réparation prend 3 à 6 mois, à peu près.
Je crois que vous-même, Gabriel Lépouzé, c'est ce que vous m'avez raconté en préparant cette émission, vous avez également été touché personnellement par une perte brutale d'odorat, ce qui est quand même, pardon, mais une sacrée ironie du sort pour un chercheur spécialiste du sujet.
Alors exactement, c'est une forme d'anosmie qui est peut-être un peu plus rare, mais qui est conséquente d'un accident, un choc sur le crâne. Et c'est un accident qui était parfois assez courant en voiture, un choc brutal sur le volant par exemple, à l'époque où il n'y avait pas d'airbag, c'était assez courant. Qu'est-ce qui se passe quand on a ce choc-là brutal? Le cerveau, dans sa boîte crânienne, va bouger un petit peu, et en bougeant comme ça, il peut abîmer certains nerfs. Et le nerf le plus fragile de notre cerveau, c'est le nerf olfactif, qui va être cisaillé, rompu. Et suite à cet accident-là, moi j'ai perdu le sens de l'odorat, parce que mon nez s'est déconnecté de mon cerveau.
C'est ça. Et je crois que vous vous êtes rééduqué en descendant dans votre cave.
Entre autres, il faut savoir que cette régénération du nez qui doit se reconnecter avec le cerveau, il n'y a pas médicament particulier pour le stimuler, autre que la stimulation sensorielle. Plus je stimule la repousse des neurones en sentant des odeurs, en activant mes neurones avec des odeurs, et mieux cette reconnexion va se faire, et plus efficacement elle va se faire. Donc effectivement, les formes d'anosmie, il faut les traiter aussi par une stimulation du nez, et il faut vraiment pas lésiner là-dessus. Plus on stimule son nez, et plus notre nez sera efficace et mieux reconnecté au cerveau.
Gabriel Lépouzet, vous êtes neurobiologiste, mais on va voir aussi que vous êtes absolument passionné de vin. C'est aussi pour ça que vous êtes dans cette émission. Mais tout d'abord, tentons de définir avec des mots simples. C'est pas forcément évident pour le grand scientifique que vous êtes, le goût. On définit communément le goût comme les perceptions sensorielles qui relèveraient finalement de la bouche. L'ouïe, c'est l'oreille. Donc tout ça relèverait plutôt de la sphère buccale. Or, la science nous montre que, on a finalement une vision un peu réductrice du goût. Est-ce que vous pourriez nous donner une définition simple du goût?
Alors, le goût d'un aliment, c'est pour moi la synthèse que réalise notre cerveau de toutes les informations sensorielles qui prennent naissance dans la bouche. Et dans la bouche, il y a beaucoup d'informations qui arrivent. Il y a des informations sur les saveurs, les informations gustatives, sucrées, salées, acides, amères, umami. Il y a la perception des textures, tout ce qui est de l'ordre du toucher de bouche. Est-ce que c'est visqueux? Est-ce que c'est mou? Est-ce que c'est pétillant? Il y a tout ce qui est de l'ordre de la perception thermique. Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? La perception de tout ce qui est piquant, irritant. Et puis surtout, la perception des arômes. Quand je mâche un aliment, je vais libérer certains composés aromatiques en bouche. Et ces composés aromatiques qui sont en bouche, ils peuvent rejoindre la muqueuse olfactive par l'arrière de la bouche. Il y a un canal qui mène directement entre la bouche et la muqueuse olfactive. Et c'est quand on va commencer à avaler l'aliment que ces arômes vont repasser par l'arrière. On parle d'ailleurs de rétro-olfaction puisque ça passe par l'arrière de la bouche.
Et c'est un mot qu'on utilise notamment beaucoup dans la dégustation du vin, la rétro-olfaction.
Tout à fait. Et en fait, notre muqueuse olfactive, elle a finalement deux chemins d'accès avec le monde extérieur, soit par l'extérieur, par le nez, quand je vais sentir une fleur, et soit par l'intérieur, quand je vais analyser les éléments aromatiques qui sont libérés dans ma bouche.
Vous m'avez fait part d'une révolution scientifique concernant justement notre compréhension du goût. Est-il vrai que nous comprenons mieux aujourd'hui qu'hier nos perceptions sensorielles, tous les mécanismes qui nous poussent qui nous permettent de décrypter le bouquet d'un vin, le sucre et l'acidité d'un fruit, le gras d'une huile d'olive?
Alors, c'est vrai qu'il y a une véritable révolution en termes de connaissances qui s'accumulent, et qui s'accumulent aussi parce qu'il y a toute une famille de chercheurs de différentes disciplines qui s'activent ensemble pour comprendre ça. Il y a des biochimistes, il y a des généticiens, il y a des psychologues, il y a des neurophysiologistes. Et tous ensemble, on arrive à mieux comprendre la complexité de du goût. Et ces connaissances, elles nous permettent clairement d'y voir plus clair. Je suis d'accord avec vous. Surtout, elles nous permettent de répondre à de nouvelles questions. On comprend mieux la nature des messages qui arrivent à notre cerveau. On comprend aussi comment ils le mémorisent mieux. Et du coup, on arrive aussi à mieux les décrire, à mieux mettre des mots sur des éléments gustatifs ou aromatiques. On arrive aussi à mieux comprendre pourquoi les sens s'influencent les uns les autres.
C'est-à-dire
En fait, chaque perception d'un aliment, on l'a dit, il y a plusieurs éléments qui arrivent en bouche, des saveurs, des arômes, des sensations du toucher. Ben, tout ça va être reconstruit par le cerveau et certains sens vont s'influencer les uns les autres. Et ça, on mesure bien et on voit qu'un élément pur n'est jamais tout seul, il est tout associé aussi à une couleur. On parle pas de la couleur, mais d'une certaine mesure, l'œil déguste aussi et transmet des informations au cerveau qui vont influencer notre perception du goût.
Et ça passe par ce qu'on appelle des récepteurs sur lesquels justement on en sait plus grâce à la biologie moléculaire?
On en sait plus là-dessus. Permettez-moi juste d'essayer de bien définir un récepteur pour nos auditeurs, pour qu'ils comprennent bien.
Bien sûr.
Un récepteur, c'est quoi? Ça va être c'est une protéine qui se trouve à la surface de nos cellules sensorielles, qui fonctionne un peu comme une serrure. Une serrure qui attend sagement qu'il y ait une clé qui est dans le monde extérieur, qui soit complémentaire avec cette serrure. Et si dans le monde extérieur, il y a une clé qui arrive, qui rentre dans cette serrure va être activée, la cellule qui l'apporte va être activée aussi, et cette activation va être ensuite transmise dans le cerveau.
Comment il faut imaginer ces récepteurs? Où se situent-ils?
Ah, ils sont vraiment, vraiment en contact avec le monde extérieur. Par exemple, dans le cas du nez, ils vont être à la surface et au sommet des cellules olfactives qui sont en contact avec la cavité nasale et avec l'air qui est ambiant. Au niveau de la langue, elles sont situées au sommet des cellules gustatives qui sont regroupées sous forme de papilles.
Ah, les fameuses papilles.
Les fameuses papilles.
Donc, ils sont entourés de récepteurs.
Alors, dans ces papilles-là, on a un regroupement de cellules gustatives qui forment ce qu'on appelle les bourgeons du goût. Et au sommet de ces bourgeons du goût, on a une flopée de récepteurs qui sont là et qui attendent savamment de savoir s'il y a un élément salé, acide, amer qui est dans l'environnement et qui va le détecter avec beaucoup de spécificités. Ces récepteurs, leur clé, c'est justement que chaque serrure est spécialisée pour détecter un composé particulier. Il y a des récepteurs pour l'odorat. Ces récepteurs ont été découverts dans la fin des années 90 et récompensés par un prix Nobel en 2004. Et pourquoi un prix Nobel? C'est parce qu'on a découvert qu'on avait 400 récepteurs différents dédiés à la perception olfactive, par exemple. C'est énorme ce chiffre-là. Il faut se rendre compte que ça représente 3% de notre génome, 3% de notre matériel génétique dédié à la perception des odeurs.
Intéressant. Nous avons beaucoup, beaucoup de réactions qui se bousculent au standard de France Inter. Je vous propose de prendre une première réaction ou une question de la part d'Alice. Vous êtes en ligne?
Oui.
Alice, oulala, quel âge as-tu?
J'ai 8 ans.
Tu as une question pour notre chercheur Gabriel Lépouzé?
Oui.
Vas-y.
Je voudrais savoir pourquoi quand tu es malade, le goût change.
Ça t'est arrivé, Alice, justement, d'avoir ta perception gustative ou ton goût qui changeait parce que tu as été malade?
Oui.
On va déguster, se transforme dans les petits bateaux, en fait, hein, tout simplement. Merci beaucoup, Alice, pour ta question. Un élément de réponse, Gabriel Lépouzet?
Bonjour, Alice. Une fois par an, ça arrive à tout le monde, à toi comme à moi, comme à François Régis, on a un petit rhume, et ce rhume va souvent induire une libération de beaucoup de mucus. Tu vois, ça coule au fond de ta gorge, ça coule dans ton nez. Et ce mucus, en fait, il s'accumule au sommet de ta cavité nasale. Et il fait comme il bloque l'accès à la cavité nasale, il bloque l'accès à la muqueuse. La porte est fermée et donc les odeurs peuvent pas accéder à cette muqueuse. Et du coup, on a la perte d'un élément essentiel du goût qui est la dimension aromatique. Mais par contre, tu continues à sentir si les éléments sont sucrés ou s'ils sont acides. Même s'il n'y a plus le parfum du bonbon à la banane, le côté banane, il te reste le côté acidulé et sucré du bonbon.
Et ben voilà, très bonne réponse. Merci beaucoup, Alice. Gabriel Lépouzé, beaucoup d'entre nous avons appris à l'école, parfois, vous savez, sur ces fameux posters à œillets que la prof de sciences nat accrochait sur le tableau, une espèce de cartographie de la langue, vous voyez à quoi je veux faire allusion, selon laquelle on percevait des saveurs salées, acides, sucrées, amères, dans différentes régions de la langue. Cette cartographie est-elle encore valable?
Effectivement, cette cartographie, on l'a tous vue, malheureusement, elle est complètement fausse et elle est née certainement d'un malentendu.
On apprend donc des choses fausses à l'école?
Malheureusement, c'est ça. Et heureusement que la science est là et ça montre aussi que la science, elle évolue doucement et que les récentes connaissances de la science sont encore pas suffisamment transmises dans les écoles de dégustation. Mm-hmm. Mais ça montre aussi que la science évolue à toute vitesse. Cette cartographie de la langue, elle naît d'un malentendu. Au départ, qu'est-ce qui se passe? On a des chercheurs qui ont montré que la langue avait des sensibilités différentes en termes d'intensité. On sent davantage les saveurs à l'avant et à l'arrière. Et en fait, cette carte de sensibilité a été retransposée un peu par intuition par un chercheur américain dans les années 40 qui s'est dit, ça c'est aussi une carte des saveurs. Et il a disposé les quatre saveurs qu'on connaissait à cette époque-là, sucré, salé, acide, amer, sur cette carte. Or, ça c'était complètement basé sur aucun résultat. Et dans les années 2000, quand on a découvert les récepteurs gustatifs et leur nature moléculaire, il y a des chercheurs américains qui ont essayé de regarder s'il y en a plus en haut, en bas, à droite, à gauche. Ils n'ont rien trouvé. Cette cartographie n'existe pas, elle n'a pas de réalité.
C'est du fantasme.
Et l'ironie, tout à fait, l'ironie du sort en plus. C'est que sur cette carte que vous avez vue sur votre petit poster, il y a quatre saveurs qui sont représentées.
Oui.
Or, à la fin des années 80-90, on découvre la saveur umami.
Ah.
Et on atteste que son goût existe. Sauf que sur la carte des saveurs, il n'y a plus de place pour la mettre. Donc cette carte des saveurs, en plus, elle est incomplète et on n'a pas réussi à la compléter jusqu'au bout.
Donc quatre des saveurs totalement périmées. Quand vous tapez d'ailleurs langue, goût sur un moteur de recherche, vous allez dans images, vous êtes envahi littéralement de ces cartographies de la langue qui vous indiquent effectivement les quatre saveurs. Mais il faut bien vous dire, mauvaise nouvelle, que c'est une connaissance scientifique qui n'est plus valable. D'ailleurs, juste avant de passer à l'umami, quatre saveurs, dites-vous, qui étaient un peu les quatre saveurs officielles, le salé, salé, l'acide, le sucré, l'amer. Depuis quand on a dressé cette typologie des saveurs?
Oh, ça te fait depuis très longtemps. Moi, je suis pas historien. Il faut demander à nos amis historiens, mais depuis les Grecs, depuis qu'on a essayé de s'interroger sur combien de sens on a, ouais, nos cinq sens d'Aristote par exemple, on a essayé de se poser la question de combien à l'intérieur du sens du goût, combien on avait de dimensions. Donc il faut retourner à l'époque d'Aristote, de Platon, Démocrite à ce niveau-là.
Ah oui,
carrément.
Ça remonte.
Et juste pour terminer sur la cartographie, je pense que il faut comprendre pourquoi elle s'est popularisée, cette cartographie. En fait, il y a une certaine dimension qui a du sens. C'est aussi pour ça qu'il y a quelque chose qui a été cru par beaucoup de gens. Le côté acide, quand vous goûtez un jus de citron, le côté citron, ben on a l'impression que ça joue sur les côtés. On a l'impression que ça tire un peu sur les côtés. Mmh. En fait, un jus de citron, il est à la fois gustatif, il va être acide, mais en plus, le jus de citron, il va induire une sensation de contraction tactile sur le côté de la langue, associé à une salivation intense sur le côté de la langue.
D'accord.
Et donc, le cerveau mélange le gustatif avec l'aspect tactile, en fait.
Intéressant. Mais c'est une perception qu'on peut ressentir, effectivement. On peut faire l'expérience à la maison, hein. C'est l'heure du brunch et du citron pressé, justement. Allez-y. C'est vrai que ça se contracte plutôt sur les côtés. Très intéressant. Alors, vous évoquiez un mot qui buzz énormément dans le milieu de la gastronomie. Un mot étrange d'origine japonaise. Umami. Toute la gastronomie mondiale en parle. Il est considéré, cet umami, désormais comme la cinquième saveur. Alors, tout le monde a entendu le mot umami, à peu près personne arrive à le définir.
Alors, l'umami, c'est vrai que si on essaie de le traduire du japonais au français, on tombe sur une traduction un peu abscons, c'est délicieux, savoureux, donc ça peut
ça
rien
nous,
dire.
Ça nous aide pas beaucoup, délicieux,
exactement,
savoureux, ouais.
Donc, la saveur umami, ça traduit notre capacité à détecter la présence d'acides aminés. Les acides aminés, ce sont les éléments de base, ce sont les briques qui composent nos protéines. Tout ce qui contient des protéines, la viande, le lait, par exemple, si on est capable de dégrader ces protéines par des processus de cuisson très longue, de vieillissement, de maturation, de fermentation, on va libérer ces petites briques, et ces petites briques, on va les détecter en notre bouche grâce à un récepteur qui est dédié à ça.
D'accord.
Et donc cette saveur umami, elle indique la présence finalement de protéines dans notre alimentation. Donc c'est quelque part c'est logique, on a en bouche un détecteur qui nous permet de dire et de savoir si oui ou non il y a des protéines, parce que ça, les protéines on en a plein le corps.
Végétal ou animal d'ailleurs. Hein,
alors ça peut être végétal ou animal. On va en trouver bien sûr dans tout ce qui est bouillon de viande, bouillon de veau, bouillon de poulet. On va en trouver dans le jambon cru lorsqu'il est longtemps affiné, dans les fromages longtemps affinés, un vieux parmesan, un vieux comté. Dans les sauces de poisson, dans les anchois en France, par exemple. Et puis, vous parlez de protéines végétales. Le soja, qui est très riche en protéines végétales, quand il commence à être fermenté et transformé, sous forme de miso ou de sauce soja, eh ben, il devient très umami.
Mais il y a beaucoup d'auditeurs, Gabriel Épouset, qui nous demandent comment on peut se figurer, se représenter cette sensation umami. Moi-même, en qualité de critique gastronomique, j'ai mis assez longtemps à apprivoiser mon umami. Maintenant, je le repère. Je sais avec quel aliment je peux ressentir l'umami, qui est cette sensation savoureuse, délicieuse, qui d'ailleurs fait saliver, hein. C'est l'idée que on a envie d'y revenir et qu'effectivement, on a les glandes salivaires un peu en surchauffe.
Alors, on peut essayer d'imaginer un petit exercice.
Oui.
Il faudrait que les auditeurs essaient de chercher un petit peu dans leur cuisine des éléments qui sont très riches en umami. Une manière, on va faire un petit exercice qui est simple. On va prendre deux verres. Pourquoi deux verres? Parce qu'on va essayer de distinguer bien l'umami de la saveur salée avec laquelle souvent on la confond.
D'accord.
Le salé du sel de cuisine. Donc on prend deux verres et dans votre cuisine, vous allez chercher un peu de sel, du sel de cuisine. Et puis de l'autre côté, vous allez essayer de chercher, vous avez peut-être du fond de veau en poudre ou un fond de poulet en poudre ou un bouillon cube.
Ouais.
Vous avez peut-être un peu de sauce soja, vous avez peut-être de la sauce magie, vous voyez cette sauce magie qu'on retrouve un peu dans les étals des supermarchés.
Ou du Viandox pour ne pas citer de marque.
Ou du Viandox par exemple. Et dans un des verres, vous allez mettre deux pincettes de sel, dans 5 centilitres d'eau, et dans l'autre côté, dans l'autre verre, vous allez mettre deux, trois pincées de fond de veau, par exemple. Vous allez commencer par goûter le verre qui est salé, avec le sel de cuisine, vous allez goûter, et vous allez sentir tout de suite à l'attaque cette dimension salée, et puis rapidement, ça va s'estomper, et ça va vous laisser une bouche qui est assez neutre, voire même peut-être un peu asséchée, on a l'impression de boire la tasse, hein, c'est dit autrement.
Oui, c'est ça.
Quand on goûte, quand
de
on
se
goûte
noyer, en mer.
Exactement. Quand on goûte le verre avec un peu de bouillon, un peu de fond de veau, on va goûter, alors on peut faire l'exercice d'ailleurs le nez bouché pour être exclusif sur l'aspect gustatif et pas être pollué par les arômes.
Mm-hmm.
Vous allez sentir quelque chose qui est salé à l'attaque, et puis on a l'impression dans ce bouillon que le salé continue, progresse, a beaucoup de longueur et très persistant. Et au niveau de la persistance, elle dure et en plus, on a une sensation un petit peu enveloppante en bouche comme une épaisseur. Et effectivement, une fois qu'on a avalé cette umami, qu'est-ce qui se passe? On salive. On a une salivation qui est plutôt à l'avant de la bouche.
Comme ça en général.
Assez épaisse. Et on fait un peu miam miam, exactement. Ce miam miam là, on sent qu'on a quelque chose qui est agréable, qui apporte du confort en bouche. Cette salivation, elle, en fait, elle appelle, elle met la bouche dans un confort, dans une disposition pour appeler la bouchée suivante. Et c'est pour ça que l'umami est si appétant, c'est qu'il nous met dans des dispositions pour avancer dans le repas avec beaucoup plus de confiance et de confort.
Passionnant. Nous avons Fabienne en ligne. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous avez une question?
Et oui, j'ai une question parce que j'ai remarqué pour l'un de mes trois enfants qu'il y avait une aversion pour le chou-fleur et c'était pas une manie de sa part, je pense, parce que elle pouvait avoir envie de manger un plat qui lui semblait appétissant, je pense à un gratin notamment. Et lorsque elle se rendait compte que c'était du chou-fleur, ben le réflexe de nausée réapparaissait comme quand elle n'avait pas d'illusion sur la nature du plat.
Ah.
Et je me demandais comment s'expliquait cette aversion, alors que globalement, c'est une fille qui aime vraiment manger, etc. Mais là, c'est vraiment trop fort. Et quelle que soit la forme du produit, que le chou-fleur soit cru, en soupe, en gratin...
Donc, voilà. Vous êtes en train de nous dire, vous pensez, enfin, c'est un peu la question de l'acquis et de l'inné, c'est-à-dire votre fille est naturellement incompatible au chou-fleur, ou est-ce que c'est une représentation culturelle du chou-fleur qu'elle se fait?
Oh, non, je pense, parce que c'est venu la première fois, elle était toute petite,
d'accord.
Elle commençait à s'alimenter, et elle avait très envie justement de ce gratin de chou-fleur. Je pense que dans son esprit, elle se disait, miam. Et une fois qu'elle a eu en bouche, c'était pas possible.
Gabriel, épousez, est-ce qu'il y a des aliments, justement, et les légumes? On parle beaucoup, souvent, de certains légumes avec les enfants. Est-ce qu'il y a une aversion naturelle, pour une raison ou une autre, à l'égard de certains aliments?
Alors, c'est une question vraiment importante qu'on pose là, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui détermine la préférence des aliments chez un enfant. Un enfant de 7 ans, pourquoi il mange ça et pas autre chose? Je vais vous faire part d'une étude qui est française, qui a été faite à Dijon, qui a essayé de suivre des enfants depuis la naissance jusqu'à l'âge de 7 ans, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui détermine ça. Et l'étude, ce qu'il en ressort, c'est que les préférences alimentaires d'un enfant de 7 ans sont déterminées très fortement par la diversité des aliments qu'il a rencontrés dans la phase de 6 mois à 1 an. Cette période où on a cette diversification alimentaire, plus on est exposé à des aliments différents et plus on va les accepter avec facilité à l'âge de 7 ans. Donc il y a une période critique vraiment où il faut exposer et réexposer les enfants, même si initialement ils ont peut-être une grimace. Alors sur le chou-fleur, c'est un bon exemple, et les tout ce qui est crucifère, les choux, les brocolis, ils ont en eux un élément qui est non négligeable, c'est qu'ils ont une petite amertume.
Ah.
Et cette petite amertume, de manière innée, c'est quelque chose qu'on a tendance à rejeter. Vous prenez un petit enfant, si on prend un petit enfant qui a quelques jours et qu'on lui fait goûter un objet amer, tous les enfants vont avoir le même réflexe, ils ouvrent la bouche, ils tirent la langue. Ça veut dire, je recrache vers l'extérieur, je veux pas être contaminé avec ça. Et l'amertume, c'est pré-câblé dans notre cerveau, on a quelque chose qui est vraiment prédéterminé. Et il faut donc désapprendre notre réflexe. Et ça, c'est pas évident. Il y a vraiment un travail initiatique là-dedans, de désapprendre ce que notre cerveau nous indique de faire. Et ça prend du temps. Donc c'est une saveur qui est encore plus initiatique, l'amertume. Et dans le cas des légumes, il faut vraiment accompagner ça avec un maximum de sauce, justement. Il faut accompagner ça aussi avec le sourire, parce que l'enfant qui n'aime pas le brocoli, est-ce que c'est aussi qu'il a traduit que ses parents n'aiment pas aussi le brocoli? Vous voyez, l'enfant, il regarde partout, il regarde le sourire ou la grimace que fait papa et maman, et il prend l'information là aussi, à ce niveau-là. Et puis après, voilà, dès qu'on a une aversion à un objet, ça peut être, mais y compris chez l'adulte, effectivement, c'est difficile de neutraliser ça, mais c'est par des expositions répétées, progressives, avec des aspects ludiques un petit peu, qu'on peut réussir à aller à l'encontre un petit peu de ces aversions naturelles et innées.
Vous restez avec nous, Gabriel Lépouzé. Dominique Hutin a-t-il bon goût, notre chroniqueur vin? Alors, vestimentairement, c'est pas si sûr, quand on voit certains accoutrements que Dominique Hutin affiche sur les réseaux sociaux, mais a-t-il bon goût en termes de vin? Eh bien, c'est ce qu'on va vérifier.
On va déguster sur France Inter.
Dominique Hutin en direct du Cotentin, bonjour.
Oui, bonjour, j'ai tout entendu.
Enfin, je suis sûr que vous êtes en pyjama alors qu'il est.
Passons. Oui, voilà. C'est pratique, la télé-radio, on peut faire n'importe quoi, personne ne le voit. Écoutez, je vais quand même essayer de prendre la suite de Gabriel Lépouzé.
Qui est toujours avec nous.
Goût. Un dimanche matin, qui est toujours avec nous, oui, il nous écoute. Mais le problème, c'est qu'un dimanche matin, À l'heure de la grâce matinée pour certains, on pourrait être tenté de ramener certaines questions essentielles à leurs expressions les plus simples. Par exemple, alors, ce vin, bon ou pas bon? Vous voyez, François-Régis, même cette question, a priori à la portée du premier pangolin venu, même cette question, même raccourcie à la hauteur du quotient intellectuel hanounesque, cette question simple n'autorise aucune réponse unique, impossible de trancher avec le seul coup près du oui ou non. Pourquoi? Parce qu'elle est plus complexe qu'il n'y paraît aussi. Mais je vais vous proposer quelques clés de décryptage. Si par exemple, le confinement vous a amené à faire de la spéléo dans votre bibliothèque jusqu'en 1825, qui est la date de parution de la physiologie du goût de Jean-Anselme Breillat-Savarin, vous connaissez?
Bien sûr.
Je vois que vous réagissez, mais voilà. C'est un avocat érudit qui a laissé son nom à un fromage. Donc évidemment, Breillat-Savarin n'a pas eu le prix Nobel de biologie, ça n'est pas un scientifique, donc il vaut mieux aborder le sujet par le biais hédoniste plutôt que scientifique. Alors quoique, car on le sait peu, dans le vin, beaucoup de choses sont mesurables, comme les sucres, l'acidité qui s'exprime en grammes, tout comme les tanins. D'ailleurs, s'agissant des tanins, on va jusqu'à estimer le degré de polymérisation des procyanidines. Mais ça, François-Régis, Gabriel l'épousé vous le dira mieux que moi. Ou alors, maintenant que Jean-Marie Bigard est aux portes de l'Élysée, on pourrait aussi exprimer les ressentis, par exemple, par « Waouh, ce pinard m'a décalaminé le filtre à air ». Donc on le voit, les approches sont plurielles, surtout si on se rappelle que le mauvais goût, c'est le goût des autres. C'est ce qu'on lit dans « La mort du vin », un livre de Raymond Dumais qui porte très mal son nom. Alors, le livre, hein, pas Raymond. Et dans lequel l'auteur laisse transpirer toute la relativité et... Vous m'entendez toujours?
Là, j'ai eu un petit... Il y a eu un petit souci.
Ça va mieux,
hein. On a eu peur.
Vous allez, voilà. Vous avez eu peur
avec
le message d'hier.
Oui.
Eh ben, justement, ne tournons pas la page. On reste dans le bouquin de Raymond Dumais, qui laisse transpirer un peu toute la relativité, toute la subjectivité des ressentis personnels. Et cela amène donc une autre question. Existe-t-il un goût universel? Ben, je vais commencer par la fin. Non. Non, pourquoi? Parce que, simplement, cela supposerait que nous ayons tous un tronc unique de métabolisme, de sensibilité, d'histoire familiale. Rien d'universel, donc. D'autant que vous l'avez dit tout à l'heure, on l'a entendu, le cerveau est à la manœuvre et cet organe, il est autant apprenant que changeant. Et en conséquence, le premier élément dont vous devez vous méfier, vous le connaissez bien, puisque c'est vous, dans le sens où les circonstances de l'instant vont influer sur le ressenti. On peut facilement imaginer que le dégustateur qui, par exemple le matin, aura gagné au loto ou se sera cassé une jambe, sera l'après-midi peut-être dans des dispositions d'esprit légèrement différentes. Voilà. Ben alors forcément, la présence de notre invité m'oblige malgré tout à un petit éclairage scientifique. Aussi, je vous propose une expérience, qui est le seul moteur fiable
rapidement,
et nécessairement reproductible. Oui, très rapidement. Une expérience à laquelle même l'atavisme œnologique ne pourra pas résister. Transplanter un bourguignon à Bordeaux. Arrosez-le suffisamment longtemps de d'eau soutenue de Merlot et de Cabernet pour qu'il prenne racine. Et il se pourrait qu'il trouve au fil de sa girondisation plus de charme aux arômes de cèdre d'un Pauillac qu'à la rose fanée d'un vieux Volnay de son enfance bourguignonne. Et donc, une dernière question, existe-t-il un vin universel qui proposerait et de la mer et du sucré et de l'acide? Eh ben, on peut le trouver dans le Bugey, c'est la patrie de Breillat-Savarin qui s'étire de Bourg-en-Bresse au lac de Bourget, la patrie, hein, pas Breillat-Savarin, et qui est un étonnant rouge à bulles demi-sec. J'ai une bouteille à côté de moi, je vais l'ouvrir.
Le Cerdon.
Et puis... Le Cerdon, voilà. Alors j'aurais pu vous proposer aussi le Lambrusco de italien d'Alessandra Petrini, mais je crois qu'il faut garder un petit peu de force, on l'aura tout à l'heure. Et puis j'ai reçu, comme tout le monde, une injonction à consommer français, donc je vais m'en tenir à ce vin de Cerdon français. Vin qui n'a de tricolore que le drapeau, hein, puisqu'il n'existe qu'en rouge. Voilà. Et moi je vais vous laisser, je vous donne rendez-vous sur la page d'On va déguster où je vous livre d'autres réflexions et mes bonnes adresses de Cerdon. J'ouvrirai quelques palourdes pour tout à l'heure et je vous laisse... Le Cerdon, qui est le vin du département de l'Ain, à tout jamais premier.
Vous connaissez forcément le Cerdon, cher Gabriel l'épousé, sachant que vous êtes passionné de vin. Alors on arrive au terme de cet entretien, mais vous aviez aussi, un coup de cœur, une bouteille récemment découverte à nous faire partager.
Alors, on parlait d'umami tout à l'heure.
Ouais.
J'aimerais rajouter cette dimension dans la liste des points qu'a abordé Dominique. avec la question, est-ce qu'on peut goûter umami dans le vin? Est-ce que c'est un bon descripteur? Et il y a un élément dont on n'a pas parlé dans le goût umami, c'est la levure. La levure, d'ailleurs, petite parenthèse, si dans votre armoire de cuisine, vous avez des petites levures en paillettes, vous voyez celles qu'on utilise en condiment sur la salade, vous goûtez ces petites levures en paillettes, elles sont très umami.
Ah.
Et en fait, les levures, quand elles participent à la fermentation, elles peuvent libérer des composés umami en fonction des conditions. Et puis quand elles meurent, qu'elles se dégradent, et qu'on fait un élevage qu'on dit sur lit, et qu'on bâtonne, c'est qu'on remet ces levures en suspension, on va extraire justement les composés umami. Donc j'ai choisi un vin qui pour moi rassemble deux éléments qui contribuent à l'umami, c'est l'élevage sur lit, et puis c'est le terroir granitique qui prédispose les levures à fabriquer encore plus de composés umami. Ce vin, c'est un grand vin qu'on trouve sur beaucoup de tables étoilées. Mmh. C'est un grand vin de Muscadet du domaine Luneau Papin, cuvée Eldor, 2018. Mmh. Alors c'est un vin, je vais m'en servir un petit peu et le goûter rapidement. C'est un vin qui, on s'attarde pas sur le nez, même s'il a beaucoup de délicatesse, mais en bouche, si vous le prenez, vous allez avoir cette belle acidité délicate qui commence, suivie justement d'une salinité, de ce côté salin, qui se prolonge, on commence à avoir une texture un peu enveloppante, et à la fin, on salive. Là, on retrouve les quatre déterminants de l'umami. C'est du registre du salé, c'est quelque chose qui persiste, qui plutôt en finale, c'est salivant, et c'est ce côté un peu enveloppant, épaisseur.
Merci beaucoup, Gabriel. On va retrouver d'ailleurs les références, parce qu'il y a d'autres bouteilles que vous nous avez conseillées. Vous reviendrez au micro dont on va déguster, ça c'est certain. Un grand merci pour vos éclairages passionnants sur nos perceptions sensorielles, même si on n'a pas pu évoquer évidemment tous les sujets, mais c'était une très bonne introduction scientifique à ce qui nous intéresse, nous, quasiment au quotidien, et beaucoup de ceux qui nous écoutent. Merci Gabriel L'Épousé.
Merci à vous, au revoir.
Et à très bientôt. C'est l'heure de retrouver l'ami Vincent Josse et sa lecture alléchante. Aujourd'hui, on se replonge dans les aventures d'un gourmand vagabond, de Jim Harrison, l'écrivain américain qui était connu pour être un ogre amoureux de la cuisine et des vins français. Et bien, dans les années 2000, il raconte comment un jour, sa rencontre impromptue avec un célèbre réalisateur d'Hollywood à Paris l'entraîne dans un des plus célèbres bistrots de la capitale.
Ce n'est pas parce que vous avez le ventre plein que vous perdez aussitôt tout intérêt pour la boustifaille. Les gourmands ou les rois de la fourchette ont peut-être déjà des dents avant la naissance, à moins qu'ils n'avancent dans le monde à grands coups de gencive. Et pour eux, encore, est le seul synonyme approximatif de assez. Bref, je regardais un café très banal quand j'y ai avisé Francis Ford Coppola en train de pianoter sur un abominable ordinateur portable. Il a levé les yeux, m'a adressé un grand geste et dit « Je connais l'endroit idéal où nous allons manger ». Plutôt que « Salut, comment vas-tu ? L'art est une chose merveilleuse, n'est-ce pas ?» Le lendemain soir, nous étions toute une bande chez l'ami Louis, dont Danny DeVito et Russell Crowe. Francis, en grand amateur épanoui de la cuisine française, a pris les choses en main. J'ai approuvé, car je suis moi-même un mangeur impénitent, ainsi qu'un nutritionniste amateur qui distribue ses avis en fumant et en descendant plusieurs bouteilles de sublime vin rouge Salvateur. Je m'étais laissé dire que l'ami Louis accueillait une majorité d'Américains et que ce restaurant n'était plus ce qu'il avait jadis été, mais c'est valable pour tout, plus rien n'est aujourd'hui ce qu'il était jadis. Pour notre tablée de 8 convives, Francis a commandé des escargots à volonté, un plateau de foie gras, un gigot d'agneau et quelques poulets parmi d'autres victuailles. La clientèle du restaurant était exclusivement française et ce repas a duré une éternité. Jack Nicholson m'a dit un jour « Ce n'est que dans le Middle West que bouffer comme un chancre est toujours considéré comme un acte d'héroïsme. » Dans ce cas, Coppola a droit au titre de citoyen honoraire du cœur du pays, tout comme Orson Welles, qui en un certain nombre d'occasions m'a donné l'impression que j'étais une timide Mary Poppins. Nous avons bu une bonne douzaine d'excellents vins de Bordeaux, puis Coppola a dirigé l'addition vers DeVito, non qu'il ait mangé plus que nous, mais parce que selon l'une des plus belles traditions hollywoodiennes, c'est celui qui gagne le plus d'argent cette année-là qui paie la note. J'étais certain que le montant dépassait celui d'un récent repas chez Taïwan, mais en tant qu'invité, je n'avais pas mon mot à dire.
Jim Harrison chez l'ami Louis. Merci à Vincent Josse pour sa lecture. Vincent, qu'on aura le plaisir de retrouver tout à l'heure à 15h sur France Inter pour une rediffusion du Grand Atelier consacré aujourd'hui à Jacques Demy. Les vraies pâtes à l'italienne, c'est la leçon de cuisine qu'on vous propose dans un instant. Et en guise de mise en bouche, Elvira donne sa langue aux oiseaux. Elvira?
Oui, je suis bien là.
Et vous allez même nous montrer que non, l'Italie n'a pas le monopole des pâtes.
Ouais, je sais que c'est une thèse qui est difficile à défendre. D'ailleurs, je vais pas trop m'y risquer, mais je dois avouer un gros faible en ce moment pour une variété de pâtes qui étaye pourtant bien le propos. Alors, on l'appelle langue d'oiseau en France, on l'appelle risoni en Italie. Vous voyez de quoi il s'agit?
Bien sûr.
Et ça décrit très bien de quoi il s'agit en effet. C'est une pâte de blé dur à la forme de grands grains de riz qui viendrait à l'origine du Maghreb. On l'appelle tlitli en Algérie. Et moi, j'adore cette petite pâte ultra rapide à cuire du fait de son gabarit. J'adore sa texture un peu glissante sous la langue. Et j'adore encore plus la versatilité de son répertoire. Pour les Grecs, elle est grecque. On l'appelle alors orzo ou kritaraki. Ce kritaraki étant une petite pâte qui contient également, en plus de la semoule de blé dur, du lait de brebis. Elle entre notamment dans la composition d'un plat génial qui s'appelle le yuvetsi. C'est un plat d'agneau mijoté avec du bouillon, de la tomate, ces fameux kritaraki, donc langue d'oiseau, et du fromage grec qu'on appelle misitra. Voilà pour la Grèce. Au Portugal, la langue d'oiseau s'appelle bagos. Elle entre notamment dans la composition de certaines soupes. Et pour ma part, je fais en ce moment en boucle, vous me connaissez, une recette simple et rapide. Ça doit faire, je pense, la dixième fois que je la fais.
Je l'ai même vu circuler sur votre compte Instagram.
Oui, je n'arrête pas de
la faire. Et elle fait rudement envie.
C'est vrai, vous trouvez?
Carrément.
C'est une recette toute simple et rapide qui mélange un peu toutes ses origines finalement. C'est donc de l'orzo ou risoni, merguez, tomate. Je fais dorer 3-4 merguez pour 4 personnes, détaillées en morceaux, dans une poêle à bord haut ou une cocotte, bien dorée. J'enlève un peu de gras de cuisson des merguez. J'ajoute un bon filet d'huile d'olive, 2 gousses d'ail pressées, un oignon émincé, un petit peu de piment de chili au cas où les merguez seraient pas assez pimentées. Je fais revenir rapidement à feu vif. J'ajoute 400 grammes de pulpe de tomate, un grand verre d'eau, de l'orzo bien sûr, donc c'est langue d'oiseau, 150 grammes à peu près pour 4 personnes, un peu de câpre, du sel, du poivre, une branche de romarin. Je couvre et je cuis pendant 15-20 minutes. Les pâtes, ces petites pâtes langue d'oiseau, vont cuire façon pilaf par absorption.
Et voilà,
par absorption.
Un peu comme un risotto.
Donc faut quand même goûter un petit peu parce que ça cuit quand même assez rapidement. Faut vérifier que la pâte soit pas trop gorgée de liquide. Et pour gréquifier ou helléniser un peu l'affaire, je parsème de feta et de menthe avant de servir.
J'adore.
Autre option, on peut émietter une boule de mozzarella et passer sous le grill du four.
C'est magnifique.
Et cette recette... feta, c'est pas mal, c'est un peu umami.
Et voilà, exactement. On est exactement dans l'umami et c'est une recette en plus assez simple à faire. Merci beaucoup Elvira.
Hyper
on retrouve
simple.
D'ailleurs cette recette sur franceinter.fr. À la page, on va déguster. On se retrouve en deuxième heure pour une leçon de pâte sur France Inter. Les marmites dont on va déguster mijotent à feu doux jusqu'à 11h. Je vous propose de vous pencher dans cette deuxième partie d'émission sur une question épineuse. Comment réussir una pasta perfetta? Alessandra Pierini va nous donner des conseils dans un instant en dénonçant au passage quelques hérésies françaises en matière de pâtes, si vous voyez ce que je veux dire. Nous sommes toujours en compagnie, en direct et à distance, d'Elvira Masson et de Dominique Hutin. L'ami Laurent Delmas nous fera son cinéma un peu plus tard. Dialoguez avec nous aussi, amis auditeurs, si vous avez des questions ou des recettes à nous confier sur les pâtes, au 01 45 24 7000.
France Inter. François-Régis Gaudry. On va déguster.
Mais c'est l'heure tout d'abord de retrouver. On le rencontre pas malheureusement parce qu'il est à distance lui aussi. Je suis tout seul en studio en fait, tous les dimanches. C'est celui qui nous en met.
On est avec vous, on est ensemble.
Voilà, exactement, ensemble à distance. Vous nous en mettez plein la bouche et les oreilles. C'est Mathieu Conquet, vous l'aurez deviné. Bonjour Mathieu.
Bonjour François-Régis.
De la platine au petit plat, chaque dimanche vous composez pour nous, avec votre femme Marie Conquet, excellente cuisinière décidément, un accord mésimusique. Et quand je vous ai parlé de pasta Mathieu, vous avez bondi.
Bah oui, déjà parce que tout le monde ou presque aime ça, les pâtes, et puis ça nous ramène toujours à l'enfance. Et du coup, en musique, j'ai d'abord pensé à une chanson d'enfance, allez, un petit souvenir pour ceux qui avaient les cassettes des Fabulettes à la maison.
Des nouilles, des nouilles. Que va-t-on manger?
Des nouilles.
Mais hier déjà?
Des nouilles.
Ce matin encore?
Des nouilles.
À midi enfin?
Des nouilles. Après les nouilles, on se débrouille, on veut des nouilles et rien de plus.
On ne peut pas manger que des nouilles, il faut varier les menus. Il y a donc les vermicelles, les spaghettis, les papillons, cheveux d'ange ou de demoiselle, ruban, coussin et tortillon, macaroni et coquillette, petit plomb ou langue d'oiseau, alphabet au bord de l'assiette, panier, roulettes et fuseaux.
Avec un inventaire à l'après-vert de tous les formats de pâtes, Mathieu, c'était Anne-Sylvestre?
Oui, vous avez vu, c'est magnifique, puis elle parlait des langues d'oiseaux, justement.
Splendide.
Alors avec Marie, on voulait vous proposer, elle en parle pas dans la recette là, Anne Sylvestre, de cette chanson, on voulait vous proposer une recette de salade de pâtes avec la frégoula. La frégoula, c'est une spécialité, je sais que vous adorez ça, c'est une spécialité qui vient de Sardaigne. C'est une toute petite pâte qui ressemble un peu à des gros grains de couscous. Hein. C'est pas exactement des billes, c'est des pâtes qui sont extrudées et qui sont tout de suite coupées au laminoir. Alors la frégoula, on va ici l'associer avec des petits pois frais, parce que les petits pois, c'est la saison, c'est parfait. Et puis du citron et un dernier ingrédient secret, je le garde pour la fin.
Alors,
ben voilà. Alors on va d'abord faire cuire les frégoles comme indiqué sur le paquet. En général, c'est 8 à 10 minutes. Elles sont toutes petites, mais il faut les cuire longtemps. On va les égoutter, bien rincer pour que ça ne colle pas. Ensuite, on va écosser les petits pois et on va garder l'écosse parce qu'en fait, on va faire la sauce avec l'écosse. Et c'est là que ça vaut le coup d'avoir choisi des frégoulés qui sont extrudés au bronze. Parce que les pâtes, quand elles sont faites dans du téflon, elles sont un peu trop lisses et la sauce, elle va pas accrocher. Absolument. Alors que si c'est passé par du bronze, il va y avoir des petites aspérités et la sauce va bien s'accrocher dessus et lui donner un maximum de goût. Alors, les petits pois dans la casserole d'eau bouillante, 3 à 5 minutes. Faut pas trop les faire cuire, sinon ce sera farineux. On les rince à l'eau froide, on égoutte, on réserve. Et puis, la sauce, bah, vous faites cuire l'écosse de petits pois pendant 10 minutes à l'eau. On va les mixer avec un peu d'eau de cuisson, une pincée de sel, un filet d'huile d'olive. Et puis, il va falloir filtrer parce qu'il faut enlever toute la fibre. C'est très fibreux, l'écosse. Et ensuite, on va avoir une très jolie sauce, un jus vert. On va mélanger dans un saladier les frégoles, les petits pois, des zestes de citron, de l'huile d'olive, un peu de piment d'Espelette et puis ce fameux coulis. Si vous avez un petit peu de ciboulette ou un oignon botte, ça ira bien avec. Et l'ingrédient secret avec la frégoula, bah c'est la fragola, c'est les fraises.
Ah,
ça va
pas
être très
mal.
Sympa. Et oui, faut ajouter, je sais que vous adorez les jeux de mots. Je me dis frégoulé, fragola, ça va marcher à fond. Vraiment, on l'a refait hier, c'est hyper bon. Donc vous allez avoir une salade avec voilà plein de petites boules, les petits pois, les pâtes comme ça, et puis les fraises qu'on va couper en dés. Vous allez voir, vraiment, je vous promets, c'est délicieux.
Le vert du petit pois, en prenant bien soin d'ailleurs de récupérer l'écosse, ça c'est une super idée pour faire un jus bien vert acide. Le rouge des fraises, elle fait décidément très envie cette recette à retrouver sur franceinter.fr. À la page, on va déguster. Évidemment, il y a une musique qui accompagne ce plat, Mathieu.
Ah oui, il fallait que ce soit une chanson italienne, bien sûr. Alors, je vous propose d'écouter Mina. C'est une grande chanteuse des années 60-70. Alors, elle est toujours en vie. Hein. Et moi, j'aime beaucoup cette chanteuse parce qu'elle a toujours réussi à marier chansons populaires et puis des productions très sophistiquées. C'est une grande amie d'Adriano Celentano. Mmh. Elle chantait du jazz, du rock, de la variété. Ce qu'on va écouter, c'est un morceau de 77 qui est très, très amusant. Elle se demande qu'est-ce qui sent si bon dans la cuisine. Ma che bontà, qu'y a-t-il dans la casserole et pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas entrer dans la cuisine? Ma che bontà, qu'est-ce que c'est bon? Quelle délice, Mina!
Ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua? Vitello delle Ande? No. Bovino della Gallura? No. Ma che cosa sarà mai questa robina qua? Un goccettino, ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua? Parolo delle Langhe? No. Aleatico dell'Elba? No. Ma che cosa sarà mai questa robina qua? Thank you. assaggiare un pochettino, ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua, ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua, ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua, ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua. Cioccolato svizzero? No. Cacao della Bolivia? No. Ma che cosa sarà mai questa robina qua? Cacca.
Un grand grazie à Mathieu Conquet pour ce super choix musical qui nous met de bonne humeur en ce dimanche ensoleillé sur toute la France. Merci beaucoup Mathieu, qu'on retrouvera d'ailleurs la semaine prochaine pour une nouvelle recette accompagnée d'un accord musical. Alessandra Pierini, ciao!
Ciao, buongiorno!
Come stai?
Benissimo, benissimo, merci.
Vous connaissiez évidemment Mina?
Oui, 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 bien sûr, elle a bercé mon enfance.
Mais alors, d'où vient cet accent à couper au couteau? On a l'impression quasiment qu'elle ne roule pas les R, qu'elle prononce un R un peu à la française.
Oui, c'est en italien, on appelle ça R moche.
Ah!
Mais c'est un peu une attitude qu'elle prend. C'est une chanson qui est vachement ironique. Donc elle parle un peu des aliments industriels qu'on mettait sur la table aux alentours des années 80. Et elle prend un petit peu l'attitude comme ça de bobo milanaise.
Très bien. On en a beaucoup mangé pendant le confinement au point de vider certains rayons des supermarchés. Ce sont les pâtes. Eh bien, je vous propose una lezione di pasta avec Alessandra Pierini.
On va déguster sur France Inter.
Allez, on va mettre la table, hein? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, mes amis? À la carte. Oui. Hey, Joe! Bandito dit qu'il veut des spaghetti spéciales. Avec des grosses boulettes de porc.
Mamma mia, il parle avec les chiennes maintenant.
Régalez-vous les amoureux. Tony, c'est les rois des spaghettis.
Qui n'a pas reproduit à la maison avec l'être aimé la scène culte de la belle et le clochard qui se partagent comme ça. Vous avez certainement la scène en tête. Qui se partagent sensuellement un spaghetti. Parlez debout. On va parler spaghetti, mais d'autres formats aussi avec vous, Alessandra. Vous êtes à la tête de l'épicerie Rap Paris 9e. Votre rayon pâte qui est particulièrement bien fourni en matière de pâte sèche, est-ce qu'il a été aussi en rupture de stock pendant le confinement?
Oui, nous avons frôlé la rupture de stock, mais heureusement, nous avons toujours été assez bien achalandés. Mais c'est vrai que les pâtes ont été vraiment un des aliments les plus consommés, au moins, dans notre épicerie pendant toute cette période.
Vous confirmez la passion française pour les pâtes, même si on va voir qu'on n'est pas à deux ou trois erreurs près. Alors d'abord, un petit point sémantique, chère Alessandra. On entend plusieurs mots concernant les pâtes. Pour désigner les pâtes sèches, c'est...
Oui, pasta secca.
C'est ça, à la différence des pâtes fraîches.
Ok, pasta fresca.
C'est ça, mais là où ça se complique, c'est qu'on entend aussi souvent, quand on a la chance de voyager en Italie, un mot qui est pasta asciutta.
Pasta asciutta, absolument, parce que la pasta, c'est en fait le monde des pâtes, en général. Et la pasta asciutta, c'est la pâte, une fois qu'on l'a cuite et on l'a assaisonnée, donc séchée, sortie de l'eau, et donc assaisonnée dans l'assiette. C'est en fait le plat de pâte.
C'est le plat de pâte, absolument. On entend aussi, de temps en temps, pastificio.
Oui, c'est l'endroit où on produit les pâtes. Quand c'est à une très grande échelle, on parle de fabrica de pasta, mais le pastificio à un niveau artisanal et familial, c'est comme ça que ça s'appelle, la fabrique de pâtes.
À la différence du pastaio.
Pastaio, c'est l'artisan pastier, en fait, c'est la personne qui fait la pasta.
C'est ça. Alors, il y a eu 1000 débats sur l'origine des pâtes depuis qu'on en mange en Italie et dans le monde. Une chose est sûre, c'est que la thèse selon laquelle Marco Polo aurait rapporté les pâtes de Chine, elle est quand même considérée désormais comme très fantaisiste.
Bah oui, parce que en fait, on mangeait déjà des pâtes en Italie bien avant que Marco Polo revienne de son long voyage, qui était donc à la fin du XIIIe siècle. Et donc les pâtes ne sont pas d'origine chinoise. Probablement, il a emporté aussi quelques spaghettis de riz, sûrement dans ses valises, mais pour dire en fait qu'il y en avait aussi ailleurs. Des c'est pâtes ça. Qui ressemblaient beaucoup aux nôtres.
C'est ça. Tout d'abord, commençons par le choix de la pâte, avez-vous, Alessandra. On va surtout se concentrer sur les pâtes sèches. C'est vrai qu'il n'est pas toujours facile de les choisir tant il existe de nombreuses marques et d'origines. Les critères de qualité ne sont pas vraiment faciles à démêler. Pourriez-vous nous dire à quoi on reconnaît de bonnes pâtes sèches, alors qu'il s'agisse de penne, de spaghetti, de fusilli, s'il fallait se concentrer sur quelques paramètres?
Oui, donc déjà dans les ingrédients, nous sommes pas très bien orientés. Nous avons juste marqué semoule de blé dur et eau. Ça, c'est la pâte sèche qu'on trouve pour la plupart dans tous les rayons. Mais il n'y a pas donc une bonne pâte sans une excellente vraiment matière première. Et donc ça, c'est la qualité du blé qui prime et aussi donc son origine qui détermine ensuite le goût et le parfum.
Et celui-ci n'est pas forcément indiqué.
Non, ça c'est pas forcément indiqué. Enfin, l'origine des pâtes, elle est indiquée maintenant sur les paquets, mais ce n'est plus une obligation. Cela a été pendant un certain temps, mais malheureusement, depuis avril 2020, ce n'est plus une obligation, sauf vraiment dans certains cas bien spécifiques où il est obligatoire. C'est vrai qu'on essaye toujours d'acheter des pâtes de blé italien, au moins du blé cultivé en Europe, parce que nous avons surtout des réglementations beaucoup plus strictes, surtout pour l'emploi de pesticides, qui est beaucoup plus réglementé par rapport, par exemple, au Canada, où il y a une très très forte importation de blé pour les pâtes industrielles.
C'est ça. Bah justement, il y a Aline de Paris qui nous demande ce qu'il faut penser de la célèbre marque bleue commençant par un B.
C'est vrai que c'est l'origine du blé fait que laisse les pâtes, elles sont pas super géniales. C'est bon, il y en a beaucoup d'autres qui méritent en fait d'être achetées, d'être consommées par rapport à celle-ci.
Mathieu Conquet évoquait tout à l'heure la légation trafilata in bronzo ou trafilata al bronzo, ça veut dire tréfilée exudée au bronze. Est-ce que ça, c'est un critère auquel on peut se fier?
Oui, absolument. Parce qu'en fait, les moules au bronze, c'est ceux qui sont utilisés surtout pour les pâtes artisanales. Mm-hmm. C'est un moule très très gros et très cher aussi. C'est pour ça qu'ils ne sont pas utilisés aussi dans l'industrie. Ça permet d'extruder une pâte très rugueuse, donc beaucoup plus blanche et poreuse. Et c'est cette qualité, en fait, qui permet à la pâte de bien accrocher la sauce, de bien être enrobée. Et aussi une très bonne tenue de cuisson.
Donc choisir effectivement une pâte avec une certaine rugosité à la surface, un peu blanche, peut-être un peu farinée, ça c'est la promesse qu'elle accrochera la sauce.
C'est ça, absolument. C'est ça. On voit la couleur généralement, elle est blanche, elle n'est pas totalement uniforme comme certaines pâtes industrielles qui sont plus brillantes et plus jaunâtres.
On va passer en cuisine, chère Alessandra, mais il paraît que vous me disiez en préparant cette émission qu'une bonne pâte, lorsqu'on ouvre le paquet, elle a un parfum.
Ah oui, elle doit absolument sentir la céréale. Mmh. Et la même chose, on la sent aussi une fois qu'on la plonge dans l'eau et qu'elle commence à cuire, en fait. Donc, la pâte, elle doit sentir bon.
C'est ça. Donc, on passe en cuisine, chère Alessandra?
Oui, avec plaisir.
Bah déjà, il y a comme une espèce de malentendu entre la France et l'Italie, c'est le statut des pâtes en Italie, et notamment par rapport à la quantité de pâtes qu'il faudrait préparer par personne. On le rappelle jamais assez, mais en Italie, la pâte n'est pas tout à fait un plat de résistance.
Pas du tout, c'est en fait ce qu'on appelle un primo piatto. Uh-huh. Nous avons un antipasto, une entrée, après le primo piatto et le secondo piatto, qu'en général le deuxième plat c'est plutôt une protéine animale ou du poisson, ou un plat plus riche. Et le primo piatto c'est constitué souvent de pâtes, donc on en mange une plus petite quantité par rapport à ce qu'on consomme généralement en France. Ce qui équivaut en fait environ à 80 grammes de pâtes sèches par personne.
Donc en France on serait plutôt dans les 150 grammes par personne,
150 grammes,
parce que la pâte est souvent en fait un plat principal.
un plat principal, tout à fait. Et donc après, c'est vrai que les quantités ne sont pas les mêmes. Un paquet de pâtes de 500 grammes en Italie, on mange à 5 personnes, alors qu'en France, un paquet fait plutôt pour 3 bonnes assiettes, puisque c'est un plat principal, généralement.
Mais vous nous pardonnerez si de temps en temps, on a envie de se faire un plat de résistance et qu'on va frôler les 120, 130 grammes par personne, allez, Sandra.
Bien sûr, je le fais souvent, parce que j'adore les pâtes. Donc, il faut être aussi gourmand,
c'est
pas
ça.
De souci.
Vous êtes tolérante, même faire. Si vous êtes quand même exigeante, et on va le voir, parce que, venons-en à la question brûlante de la cuisson des pâtes qui répond à des règles très précises, et là ça ne déconne pas, si je peux me permettre. Il y a des règles à respecter, allez-y.
Oui, donc déjà, il faut prévoir une grosse casserole d'eau.
Important.
Même si on fait les pâtes pour une seule personne, il faut que les pâtes, vraiment, elles nagent bien dans l'eau. Donc on préconise environ 1 litre d'eau pour 100 grammes de pâtes. Donc il y a une petite règle à retenir, c'est celle de 1, 10 et 100, c'est-à-dire 1 litre d'eau pour 10 grammes de sel pour 100 grammes de pâtes.
Génial.
Donc,
mémotechnique.
C'est tout à fait. Le sel, on le met dans l'eau juste avant de mettre les pâtes, parce que les pâtes, elles ont besoin de l'absorber, d'être goûteuses, donc bien salées. Elles sont meilleures, bien sûr, au goût dans l'assiette. Et il ne faut pas hésiter justement de les tourner aussi dans l'eau de façon qu'elles continuent bien à nager, de façon que l'amidon puisse bien s'imprégner d'eau et qu'il ne sorte pas trop des pâtes en fait. C'est quand l'amidon sort des pâtes que la pâte est trop cuite, l'eau devient blanchâtre, très foncé, et en fait, c'est à ce moment-là que les pâtes, elles deviennent collantes.
C'est ça.
Donc, il faut absolument éviter de les surcuire, de les laisser trop longtemps, et surtout de les laisser dans une petite quantité d'eau.
Alors,
ça, c'est vraiment néfaste.
Le tempo di cottura, le temps de cuisson qui est souvent indiqué sur le paquet, quand vous dites ne pas les surcuire, il y a souvent un temps de cuisson qui est indiqué. Le al dente est une notion assez relative, même en Italie. Le al dente des Romains n'est pas l'al dente des Napolitains, etc.
Absolument.
Qu'est-ce que vous préconisez ? Les manger quand même, il faut qu'elles soient fermes à la dent. C'est la définition d'al dente.
Oui. Ah oui. Ce qui est le mieux, c'est en fait de pouvoir goûter les pâtes. Le temps indicatif, ça nous donne une petite idée. Mais en fait, ça dépend aussi beaucoup de la quantité d'eau, de l'intensité du feu qu'on met sous la casserole et de beaucoup d'autres facteurs.
Mm-hmm.
Donc, le mieux, c'est de goûter les pâtes. Il faut qu'elles soient résistantes sous la dent, donc qui est de la mâche, et que quand on découpe la pâte, on voit encore au cœur un tout petit peu de blanc.
Ah, et, c'est important ça.
Ça veut dire que la cuisson n'est pas arrivée vraiment juste au bout des pâtes et que on peut considérer qu'elle est bonne pour être retirée de l'eau.
Quand on coupe avec les dents un spaghetto que l'on sort de la marmite, effectivement, si on le coupe et qu'on regarde dans la section, il doit y avoir un petit point blanc au cœur qui indique
tout
que c'est encore un peu al dente.
C'est ça, parce que la pâte, quand on la sort de l'eau, elle va quand même rester encore à température, à continuer à cuire légèrement. Donc, ça permet aussi d'arriver à la pâte dans l'assiette dans des superbes conditions.
Donc, il faut goûter la pâte plutôt que de regarder
toujours
le paquet.
Toujours goûter
et le temps de
plutôt que de. Voilà,
ou les
ça
deux.
Peut indiquer plus ou moins. Hein. Il y a parfois un temps de cuisson de 14 minutes. Donc, on commence à surveiller à partir de 11 minutes.
Tempo
et on retire
cottura,
toujours.
On dit pas tiens,
tempo di cottura
ouais.
Sur le paquet et on retire éventuellement une petite minute de cuisson si on a envie après de passer la pâte dans la poêle. Avec la sauce, et que c'est ce qu'on préconise en Italie d'ailleurs de
c'est
faire.
C'est ça, c'est donc ça veut dire que vous dites que c'est la pasta dans la sauce et non la sauce dans la pasta.
Jamais, c'est toujours dans ce sens-là. Il faut toujours que la pâte soit dans la sauce, et si la sauce, donc c'est un ragoût, une sauce chaude, il faut qu'elle soit à la même température, de façon qu'il n'y ait pas un choc thermique, que la pâte, en sortant de l'eau, elle garde ses pores ouverts, elle puisse bien... être rentré dans la sauce et la sauce puisse ensuite rentrer dans la pâte.
Allez.
Si on laisse refroidir à la pâte une fois sortie, ça fait une sorte, un peu, elle se referme en fait. Et après, la sauce, elle glisse plutôt sur la surface de la pâte et ne pénètre pas, malheureusement.
Une recette, una ricetta, per favore. Je veux une recette, mais juste avant, on a une petite question qui nous vient du Bordelais et qui on nous demande. Alors, c'est vrai que très souvent, on a tendance à mettre un filet d'huile d'olive dans l'eau de cuisson des pâtes pour ne pas qu'elles collent entre elles. C'est pas forcément une bonne idée.
Non, ça sert pas vraiment à grand chose. D'ailleurs, elle fait en fait glisser ensuite la sauce sur les pâtes parce que l'huile, elle forme une pellicule sur les pâtes quand elles sont dans l'eau, donc ça les rend imperméables. Non, je dirais pas absolument pas d'huile dans l'eau de cuisson. Si vraiment on veut, quand on sort les pâtes de l'eau, qu'on les égoutte, si on peut pas les mettre dans la sauce tout de suite pour X raisons, à ce moment-là, oui, on peut mettre un filet d'huile d'olive, bien les enrober pour éviter qu'elles ne se collent.
D'accord, très bonne idée. Alors, des recettes. On va commencer par une recette assez universelle. Les premières courgettes ont fait leur apparition sur les étals qui nous viennent du sud de la France. C'est une très bonne nouvelle. Vous nous proposez une pasta entièrement végétale qui plaira donc à l'intégralité de nos auditeurs, qui est facile à faire et en plus bon marché. Comment vous l'avez baptisée ?
Alors ça, ce sont la pasta con le zucchine. Zucchine, c'est le nom de la courgette. Absolument. En fait, en Italie. Et moi, je fais cette pâte avec des linguine. Je l'aime beaucoup comme ça. On peut aussi utiliser des pâtes courtes, genre un peu les fusils. C'est une pâte assez facile et passe-partout et vraiment de saison. On utilise donc des courgettes de préférence. C'est vraiment celles printanières un petit peu plus claires et petites. Mmh. Elles seront plus fermes, elles seront moins aqueuses. Un petit peu d'ail, des feuilles de basilic aussi, c'est bien de saison, et bien d'huile d'olive. On fait donc juste revenir à la poêle avec l'huile d'olive, les courgettes qu'on aura découpées en fines tranches. On ferme un petit peu la poêle, on referme avec un couvercle pour laisser cuire les courgettes. Et pendant ce temps, on fait cuire nos linguine al dente, une fois égouttées. On enlève le couvercle de la poêle, on laisse le feu, on met les linguine avec les courgettes, on les fait sauter juste quelques secondes, on sale, on poivre, on met les feuilles de basilic ciselées, on remue encore un petit moment. Si on a envie, on râpe un petit peu de pecorino ou de ricotta de brebis sèche, on sert tout de suite. En 10 minutes, on a vraiment des pâtes succulentes.
La pasta aux courgettes, ça fait vraiment très envie. On a une réaction d'Isabelle qui dit « Bonjour, j'ai voyagé en Sicile où les pâtes ont un goût de céréales très particulier. À quoi est-ce dû ? » Peut-être est-elle tombée sur cette nouvelle tendance que l'on appelle les pâtes paysannes ou les pâtes fermières. Vous pouvez nous en dire un mot, Alessandra ?
Absolument, oui, ça se fait de plus en plus et je suis très fan en fait. Et donc ce sont ces pâtes, c'est un petit peu comme les fromages fermiers, on a la pâte fermière, ce sont des paysans qui produisent des céréales, ils font leur farine et ensuite ils produisent leurs pâtes. Donc c'est un circuit fermé et généralement ça se passe vraiment très bien pour avoir un résultat excellent de qualité organoleptique et aussi vraiment d'avoir quelque chose de très très nutritionnellement très bon dans l'assiette, souvent de vraiment de meilleur goût mais aussi de très bonne tenue de cuisson. Utilisent très souvent aussi donc du blé de variété ancienne.
Ah, oui.
C'est pour ça qu'on peut manger des pâtes à des goûts différents selon la variété de blé. La pâte n'a pas forcément le même goût. Souvent aussi cultive de l'épeautre, ça se fait aussi de plus en plus. La pâte à l'épeautre, elle est très digeste. Elle réussit très bien dans l'assiette. C'est cette nouvelle tendance qui nous permet aussi d'aller plus loin.
C'est un peu l'équivalent de ce qui se passe
des pâtes.
Dans ce qu'on appelle les paysans boulangers, qui transforment effectivement la farine issue des céréales qu'ils cultivent eux-mêmes. Eh bien, il existe aussi des fabricants de pâtes qui transforment justement, souvent d'ailleurs, des variétés anciennes de céréales en pâtes, et notamment en Sicile. Alors, justement, la Sicile, ça tombe assez bien parce que nous avons en ligne Gianluca De Simone. Ciao!
Buongiorno.
Bonjour Gianluca, vous êtes marchand de vin italien, je crois, et vous êtes originaire de Catane, dans le sud de la Sicile. Catane qui a donné naissance à l'une des plus célèbres pastas italiennes dans le monde.
Oui, la pasta alla norma.
Racontez-nous la pasta alla norma.
Eh bien, la pasta alla norma. Déjà un petit... Pourquoi ça s'appelle norma ? Ça a été donné à l'homme... Le nom, grâce à l'œuvre de Vincenzo Bellini.
Mm-hmm.
Et d'ailleurs, on le fête aussi, la pâte à la norme. Le 23 septembre, c'est la date où, généralement, on doit la manger parce qu'on fête la mort de Vincenzo Bellini. Eh bien, c'est une pâte très simple, fait avec des pomodori pelati, du basilic et des aubergines noires. Et surtout la ricotta salata. Eh bien, le processus, c'est bien simple. Il faut mettre des tomates dans une casserole, le faire réduire jusqu'à enlever un maximum d'eau. Avant tout, il faut couper en lamelles les aubergines, les faire tremper dans l'eau avec du sel pendant une bonne 30 minutes et par la suite les faire frire dans l'huile d'olive. Une fois qu'on a les aubergines frites et la tomate aussi bien ferme, oui. On cuit nos pâtes. On cuit nos pâtes à al dente, bien sûr.
Le format des pâtes?
Et après, macaroni.
Macaroni.
Oui, les macaroni, c'est la pâte qui
tubulaire,
change
hein.
Le mieux pour ce genre de sauce, je dirais. Il faut une pâte courte, de toute manière.
Ce sont des cylindres.
Ce sont des cylindres, exactement.
Mm-hmm.
Une fois qu'on fait cuire les pâtes, on les égoutte très très bien afin de ne pas laisser d'eau dans la casserole. On mélange avec la sauce tomate. On dépose les aubergines au-dessus des pâtes. Le basilic, et après on rajoute la ricotta salata.
Ah, alors ça c'est intéressant parce qu'il y a du fromage effectivement qui vient parsemer comme ça, c'est pasta, la norma entre la tomate et l'aubergine, et c'est la ricotta salata qui est une spécialité sicilienne, donc c'est pas du pecorino, c'est encore moins du parmesan.
Non, pas du tout, c'est un fromage qui ça peut être, c'est un dérivé de, ça peut être un dérivé de lait de vache,
oui.
De brebis, on peut le mélanger, en fait ça s'appelle ricotta parce qu'on recuit quand on fait le fromage, on récupère une partie du caillage.
C'est ça.
Ouais, du lait caillé. Et on le recuit, donc on fait la ricotta. Chez nous, on aime bien mettre la ricotta salata qui soit bien salée, c'est-à-dire au bout du 20e jour d'affinage, afin qu'il soit bien ferme. Et parce que la tomate, on la selle pas beaucoup. Donc on essaie de trouver un juste équilibre entre le goût de la tomate qui est assez sucré souvent, avec l'aubergine qui est frite et la touche finale du sel de la ricotta. C'est ça qui fait l'ensemble du goût de la pasta alla norma.
Merci beaucoup Gianluca De Simone, ça fait vraiment saliver. On a envie de se faire une pasta alla norma à la maison et la saison des aubergines arrive, ça tombe très bien. Et la Sicile est décidément une grande terre de pasta, puisqu'il y a aussi évidemment les spaghettis con le sarde, les spaghettis aux sardines, spaghettis ai ricci aussi, hein, les spaghettis évidemment aux oursins de mer, même si on peut la trouver ailleurs. Merci Gianluca et à très bientôt.
Merci, bonne journée à tout le monde.
Alessandra.
Oui.
Une autre recette pour être un peu dans la tonalité marine, une recette qui a d'ailleurs beaucoup de succès, qui est souvent galvaudée ou un peu amochée au restaurant, il faut bien le dire, pas seulement dans les restaurants français, hein, également dans les restaurants italiens, c'est pasta con le vongole. Les vongole, oui. Alors bon, c'est vraiment une recette célèbre.
Tout à fait. Et en France, on a du mal à trouver la vongola verace, ce qu'on appelle hein, les vongoles véritables. Et on peut utiliser par contre des palourdes plates ou à la limite des coques.
C'est ça.
Et c'est vrai que c'est une pâte très goûteuse, mais il faut utiliser pas trop d'ingrédients. Donc les vongole ou les palourdes, de l'ail, un petit peu de vin blanc sec. Toujours de la bonne huile d'olive, un petit peu de piment d'oiseau et du persil plat à la fin de l'assiette.
Et oui, c'est important.
On fait juste ouvrir les vongole, on fait cuire des bons spaghettis pour ce plat. Et on fait la même chose, on sort les pâtes de l'eau, on le met dans la poêle pour reprendre un petit peu le jus des vongole légèrement salé et marin, une fois qu'elles sont ouvertes. Et ensuite, pareil, 5 petites minutes de cuisson, on peut éventuellement rajouter quelques petites tomates cerises, mais surtout rien d'autre. Pas de crème, pas de beurre, pas d'autre chose qui viendrait
altérer.
Alors, altérer, oui, le goût surtout du poisson qui est quand même assez assez fin.
C'est ça, donc les vongolées légèrement ouvertes comme ça, avec un filet de vin blanc dans un filet d'huile d'olive, de l'ail. Il y a le prezzemolo aussi, le persil à la fin, hein, qui vient apporter beaucoup de goût.
Oui, à la fin, sans le faire cuire, juste à la fin de cuisson, ça donne la note un petit peu croquante en fait et végétale.
Vous évoquez le problème de la crème, c'est vrai que les Français ont tendance à en mettre un peu partout. Pas de crème dans la carbonara par exemple, hein.
Oui, non, non, absolument. Ça, on sait bien que c'est un crime. Vous l'avez dit plusieurs fois.
La crème est un crime. L'émulsion de la carbonara se fait effectivement avec le mélange de fromage, pecorino romano ou parmesan. Et la liaison se fait également au jaune d'œuf, bien sûr.
Au jaune d'œuf et un tout petit peu d'eau de cuisson. Cette eau de cuisson qui est en fait magistrale dans la réussite de nos pâtes. C'est toujours très bien de pouvoir en garder un tout petit peu au moment qu'on égoutte les pâtes. On en garde toujours deux ou trois louches. C'est une eau qui est légèrement amidonnée par la cuisson des pâtes et ça nous sert de liant dans les préparations quand on met pâtes et sauce dans la poêle pour le dernier moment.
C'est ça. Vous restez avec nous, Alessandra Pierini. Est-ce que Domenico Utini est dans le coin.
Oui, il est là, il vous écoute.
Le faux italien du Cotentin, vous essayez de vous faire naturaliser italien aujourd'hui ?
Ouais, enfin bon, moi je viens d'entendre vos attaques contre la crème fraîche, vous allez avoir un retour un peu difficile en Normandie, je peux vous le prédire tout de suite. Alors, j'ai écouté tout ce qui se disait là, j'aurais profité pour ouvrir aussi de mon côté quelques palourdes, parce que je vis en lisière littorale.
Parlez dans votre micro, Dominique, on vous entend beaucoup moins bien que tout à l'heure.
Ah,
là ça va mieux, oui. Ah. Bon, un autre Dominique en ligne. Vous êtes auditeur, vous n'êtes pas chroniqueur dans On va déguster.
Allô ?
Oui, bonjour Dominique, c'est à vous.
Oui, bonjour. Bonjour François-Régis. C'était pour donner une recette qu'on fait beaucoup dans le midi et surtout en ce moment de grippe et de pandémie. Mm-hmm. Mais qu'on fait aussi souvent après Noël quand on a un peu bu ou trop mangé. Ça s'appelle l'aïe gobulide.
Eh oui.
Et il y a un dicton qui dit « l'aigue bouillie sauve la vie ». C'est-à-dire que l'eau bouillie sauve la vie.
Mais
et
attendez.
En fait, cette eau, c'est un litre d'eau,
oui.
Quatre gousses d'ail qu'on coupe dedans, on fait bouillir. Quand l'ail est cuit, on met les pâtes. On peut mettre des creusets, mais moi je mets des langues d'oiseau, ce dont on parlait... tout à l'heure...
Elvira Masson, les risognes.
Elvira, voilà. Et ensuite, quand les pâtes sont presque cuites, on met un bon bouquet de sauge dedans et on laisse infuser. Et ensuite, on sert dans un bol avec du parmesan ou de l'emmental râpé.
Ouais.
Et c'est très, 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 très bon.
Ah, génial. Vous nous envoyez la recette par mail, qu'on la communique à nos auditeurs ?
Oui, bien sûr.
Merci Dominique, Aigo Bolido, cette spécialité provence.
Aigo Bolido, ouais.
Voilà, j'ai pas forcément l'accent provençal, j'en suis désolé, mais en tout cas, c'est une très belle recette où figure ce petit format de pâte. Merci beaucoup Dominique. Justement, Alessandra Pierini, il y a beaucoup de questions de nos auditeurs qui ne comprennent pas toujours la relation entre la sauce et certains formats particuliers de pâte. Là aussi, il y a des règles. Alors évidemment, il y a des règles, il y a des exceptions à la règle. Il y a souvent des tendances régionales. S'il fallait donner comme ça... quelques règles sur le format de la pâte et son mariage à une sauce précise.
Oui, alors déjà, on peut parler des pâtes longues qui sont celles peut-être les plus utilisées, les plus connues. Les pâtes longues, donc par le côté lisse, la surface qui est assez réduite, se marie très bien avec des sauces plutôt fluides. Donc on les associe avec des pâtes comme la carbonara, des pâtes aux œufs, pesto, les spaghettis con le vongole, qu'on disait tout à l'heure, ou alors des sauces tomates plutôt fraîches, légères, ou toute simple, même juste aglio olio, c'est-à-dire huile d'olive, un peu d'ail et légèrement de piment.
C'est ça.
Et après, nous avons les pâtes courtes, rayées, qui peuvent être en plus aussi creuses. Et elles ont la particularité de bien accrocher la sauce et d'absorber un peu plus. Donc, c'est pour cette raison qu'on les assaisonne souvent avec des préparations plus épaisses à la tomate. Que ça pourrait être par exemple des pâtes à l'arrabbiata ou alors des sauces à base de fromage. Les pâtes courtes et lisses, comme des paccheri par exemple.
Ça c'est des gros anneaux un peu épais de Naples.
Des gros anneaux, ouais. c'est ça. Il y a le paquero très large ou la calamarata qui est le paquero, le demi-paquero. Et on associe plutôt des pâtes donc avec une consistance plutôt légère, comme ça pourrait être des ragoûts de poisson, où il y a des morceaux et où la sauce, en fait, elle est un petit peu plus liquide, voilà, souvent avec des coquillages.
Donc s'il fallait résumer, ce serait plutôt les pâtes longues avec des sauces légères, les pâtes courtes de format court avec des sauces plus consistantes, plus lourdes, hein.
Tout à fait, parce que sinon il faut pas que la sauce en fait écrase la pâte. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne mangerait jamais en Italie des spaghettis au ragoût de Bologne, à la bolognaise.
C'est ça.
Parce qu'en fait le ragoût bolognaise, il est très dense et donc ça écraserait la pâte dans l'assiette et donc c'est beaucoup mieux de le faire avec des tagliatelles en plus fraîches
aux œufs. Donc vous êtes en train de nous dire que les Italiens se moquent de notre façon de manger des spaghettis bolognaise.
Ça, oui. Oui.
Sauf qu'il paraîtrait que c'est les Italiens émigrés d'ailleurs vers les États-Unis, vers l'Europe, qui auraient rapporté le format le plus simple, qui est en l'occurrence le spaghetto sec, et qui auraient du coup dissipé dans le monde entier cette recette.
C'est ça, parce qu'en plus, bon, la pâte fraîche, c'était la pâte aux œufs qu'on faisait surtout le dimanche, les jours de fête à la maison. Les autres jours de la semaine, on utilisait les pâtes qu'on avait plutôt dans le placard.
C'est ça. On a retrouvé Dominique Hutin.
Oui, il est là.
Qui s'est noyé dans la Manche.
La connexion qui a sauté, figurez-vous.
Bah, je vois ça. Vous nous disiez, Dominique. Vous nous disiez, Dominique.
Oui, je disais que j'avais profité de ce petit temps-là, tout à l'heure, pour ouvrir quelques palourdes. Alors, je vous écoutais attentivement. C'est vrai qu'on ne le relève pas assez souvent, mais les palourdes, quand elles sont cuisinées, c'est souvent avec de la sauce. Alors, ça peut un peu préserver le caractère maritime des palourdes, mais souvent, ça gobe cette petite touche naturellement sucrée des palourdes. Et c'est pour ça que moi, je les aime bien aussi au naturel. Alors, du coup, quand même, je vous invite à ne pas boire que mes paroles. Et pour accompagner tout ça, je ne suis pas allé très, très loin. Et j'ai remonté de ma cave un cidre brut. Alors, d'abord, parce que ça se marie très bien avec les palourdes, mais aussi, on l'ignore souvent, parce qu'il y a eu une forte présence normande en Sicile à partir du 11e siècle.
Mais c'est vrai.
Et oui, voilà. Et moi, je vous entendais parler des rayons de pâtes, là, tout à l'heure, qui ont été dévalisés pendant le confinement. Ben, s'agissant du cidre, c'est un peu le contraire, puisque les producteurs ont été privés de bars, de restaurants, de festivals, bref, de clients, et leurs revenus ont été totalement asséchés, même jusqu'à hauteur de 95% pour certains. Donc le danger est grand quand même que les pommiers soient arrachés. Alors, vous savez que moi je milite pour les cidres de garde,
évidemment.
C'est gardé trop de temps, voilà, c'est formidable. Mais là, pour le coup, avec la saison, je vous invite à vous intéresser aux cidres de printemps, qui portent la joie de l'été, qui se profile là. Il y a les pommiers en fleurs et une Normandie qui ne demande finalement qu'à retrouver ses touristes. Et un des marqueurs les plus vifs de l'effervescence qui traverse l'univers cidricole, c'est un nouveau magazine, un magazine qui s'appelle Le Journal du Sommelier et qui se propose de consacrer une année entière autour du cidre. Et vous trouverez sur notre page On va déguster un lien pour contribuer, pour épauler ce projet. Alors, malgré son nom, vous voyez, c'est pas un projet qui est le fait d'un sommelier d'un autre âge, mais c'est porté par Yana Delière et Virginie Thomas qui sont donc deux femmes. Pire, deux jeunes femmes. Voilà. Donc, intéressez-vous à ce projet tout à fait émoustillant.
Très bien.
Et pour finir, pâte et cidre, c'est un accord traditionnel très ancien qui a été relevé lors de cette fameuse présence normande en Italie et qui est attesté par cette très, très vieille ritournelle italienne que j'ai inventée ce matin. Voilà. Elle est très courte. Pour la fin du monde, dans mon sac que j'ai mis, quelques pâtes blondes, les rires de mes amis, mais je n'attendrai pas lundi pour une pasta partie au paradis. Voilà. Donc dès lundi, vous pouvez vous tourner vers les producteurs de cidre qui n'hésitent plus à sortir leur coquille.
Il y en a visiblement trop vu, Dominique Hutin, des cidres.
Une dernière chose, une adresse confidentielle, c'est François Badier,
oui.
Son Clos du Moulin. Il vient de s'installer dans mon Cotentin chéri. Voilà. Mm-hmm. C'est une installation toute récente qui dit un petit peu l'avenir du cidre. Et l'avenir du cidre au goût de l'époque, eh ben, ça, vous pourrez en profiter dès le mois de juin. Et ça tombe bien parce que le mois de juin, tiens, ça commence dès demain.
Merci. Ben oui, c'est vrai, on l'avait oublié. Merci beaucoup, Dominique Hutin. La pasta partie avec Alessandra Pierini. On arrive au terme de cette émission. Juste une dernière mini chose, Alessandra, mais vraiment en un mot. Beaucoup de gens nous disent non, pas de fromage sur les pâtes au poisson ou les spaghettis à la vongole. Pas de parmesan ou de pecorino râpé.
Alors, de façon générale, on ne met pas de fromage sur les pâtes à base de poisson. Il y a quand même quelques exceptions, par exemple sur le pecorino avec les cozze, c'est-à-dire avec les moules, et aussi quand il y a des sardines, c'est-à-dire des poissons qui ont goût très fort et prononcé, on peut mettre du fromage. Parfait. À ce moment-là, ça sera un fromage qui arrive à relever un peu comme si c'était une épice, l'assiette.
Oui, c'est ça. Donc effectivement, alors pas quand au fromage quand il est une épice, pas quand il participe à une émulsion. C'est ça que vous êtes en train de dire.
Une émulsion, une crème, oui, mais quand même très modérément avec les poissons. Hein. Il y a vraiment certains cas quand le poisson il a beaucoup de goût et comme la sardine, c'est un poisson un petit peu gras. Dans certaines recettes traditionnelles, surtout dans le sud de l'Italie, on peut mettre quelques fromages.
Très bien, et ben merci beaucoup Alessandra. Il y a également d'autres recettes qui seront en ligne que vous n'avez pas eu le temps d'expliquer, mais notamment une recette qui a énormément de succès auprès de nos auditeurs, qui est très simple à faire avec un bon citron, un peu de beurre, du persil et du parmesan. C'est les pastas limone. Génial, vraiment. On les a mises en ligne et puis vous êtes aussi, il faut le dire, en qualité de génoise, la grande spécialiste du pesto à la genovese et avec du basilic, des pignons, de l'ail, de l'huile d'olive, du parmesan, etc. Merci beaucoup Alessandra, on retrouve toutes vos recettes sur franceinter.fr à la page On va déguster et on s'est vraiment régalé avec vous dans cette leçon de pâte. À très bientôt,
Grazie.
Alessandra.
A presto. Ciao, ciao.
Merci beaucoup. Et si la pasta faisait son cinéma, oui, c'est possible avec l'ami Laurent Delmas. Bonjour.
Bonjour François-Régis, bonjour à toutes et à tous. Je vous promets qu'il n'y aura aucune partie chantée dans cette chronique.
Tant mieux.
Permettez-moi de vous dire, François-Régis, qu'au cinéma comme ailleurs, il n'y a pas que l'Italie dans la vie des pâtes. Certes, les films italiens regorgent de scènes al dente. Mais j'ai voulu vous emmener ailleurs, et pour commencer ici même en France, avec un extrait du magnifique film d'Abdelatif Kechiche, La vie d'Adèle, dans lequel des spaghettis à la bolognaise traduisent aussi un écart social.
C'est le roi de la bolognaise.
Ouais, j'espère
que tu aimes. Waouh, waouh, waouh,
waouh. Sers-toi, on prend ce que tu veux.
Un petit peu de vin ?
Oui, avec plaisir.
On est ravis de vous rencontrer, Emma. Ça fait des mois que Adèle me parle de vous. On vous voit enfin. Ça fait vraiment plaisir de mettre un visage sur tout ce que t'as dit. Hein. Ouais. C'est vrai.
Bah écoutez, c'est moi qui... Je vous remercie de m'inviter.
Bon, bah, avec plaisir.
Bon appétit. Hein.
Bon appétit, ouais. Bon appétit.
Mangez, ça va être froid.
Elles sont délicieuses, vos pâtes, en tout cas. Bravo. C'est simple, mais c'est...
Merci.
Très bon.
Merci.
Ouais. Des bolos à la française, mais bien faites, hein, même si vous avez entendu la mise en garde de notre amie italienne. Hein. Les
mais
spaghettis
oui.
bolognaises sont surtout une invention américaine et française.
Évidemment. Mais alors, vous voyez, oui, au prolo, la bolo. Tandis qu'à un autre moment du film, on verra que les huîtres sont les marqueurs sociaux des bobos. Car comme le dit Emma, c'est simple, mais c'est très bon. Ben, le mot est lancé, la simplicité. C'est la marque de fabrique des pâtes, très souvent. De quoi se souvient Bertrand Tavernier quand il songe à son enfance lyonnaise ? Écoutez plutôt. J'ai passé des heures entières à reconstituer toute la géographie des tramways de Lyon, avec des boîtes de pâtes, rivoires et carrées, dont les usines étaient très proches de Lyon et qu'on me montrait avec respect et admiration chaque fois qu'on allait par le train bleu à l'île Barbe. Voilà, je vivais ainsi dans les pâtes, en les mangeant d'abord, puis en utilisant les carrés de carton pour construire d'assez jolis tramways. Comme dirait l'autre, qui l'eût cru. Mais la France cinématographique n'a évidemment pas le monopole des nouilles. Chez Scorsese, en prison, on tranche l'ail de la sauce tomate avec une lame de rasoir, vous le savez bien, François.
Bien sûr, hein, scène culte.
Mais oui, chez Coppola, on apprend à faire la bolognaise afin que, de l'avis même du cinéaste, la vision du parrain serve au moins à apprendre quelque chose, donc à faire la bolognaise. Et puis quoi, François-Régis ? L'autre pays de la nouille, vous le savez bien, c'est l'Asie. On se souvient du film Tampopo, qualifié par son auteur Itami de western ramen, pendant coréen du western spaghetti. Et dans In the Mood for Love, le chef-d'œuvre de Wong Kar-wai, comment croyez-vous que les craquants Maggie Cheung et Tony Leung se rapprochent amoureusement, sinon en partageant un simple plat de nouilles ? Oui, décidément, c'est bien la vraie fausse simplicité qui s'impose ici comme ailleurs. Dans l'oscarisé Parasite, Bong Joon-ho se sert d'une simple préparation toute faite, très populaire en Corée, soit un mélange de deux nouilles avec sauce caramel soja et bouillon épicé appelé chapaguri. Pour parler de lutte des classes, Dès lors que la bourgeoise maîtresse de maison y ajoute, elle, des morceaux d'une viande extrêmement coûteuse. Allez, pour vous complaire, François-Régis, je retourne dans le giron transalpin pour terminer en musique et en pamphlet social avec Affreux, sale et méchant des Torrescola, dans lequel toute une famille du lumpen prolétariat se ligue pour assassiner le chef de famille en lui faisant manger des pâtes dont le parmesan est remplacé par de la mort au rat.
Ah bah sympa, bon appétit Laurent, ouais.
Bon appétit.
Je rêve, la mort au rat, ça on n'y avait pas pensé à la place du parmesan.
Tant pis.
Merci cher Laurent.
Merci François-Régis.
Ça c'est la vraie belle musique des années 70. Affreux, sale et méchant des Torrescola. Merci beaucoup Laurent pour ces découvertes et pour ces spaghettis à la morora. On va passer à Elvira qui nous propose un petit coup de cœur culture. C'est un documentaire en ce dimanche. Vous nous présentez un documentaire mais qui va être diffusé dans quelques jours à la télévision, Elvira.
Ouais, et là on se plonge dans le passé. Arte diffuse samedi prochain, le 6 juin, un documentaire en effet consacré à celui qui, entre la fin du 19e siècle et les 20 premières années du 20e, a bouleversé les règles de la gastronomie et du restaurant à l'échelle mondiale, aussi bien en salle qu'en cuisine. Je parle bien sûr de Auguste Escoffier.
La concassée est presque prête, hein.
Pour se faire respecter en tant que chef, il reprend l'exemple de Carême et s'achète la plus haute toque qu'il peut trouver.
Messieurs, s'il vous plaît.
Elle va devenir l'apanage des chefs et leur valoir le surnom de gros bonnet.
Demandez tous de vous rassembler ici.
Avec le pour ses ouvriers, il sera désormais Monsieur Escoffier. Et autour de ses fourneaux, alcool et tabac seront interdits. Sa première préoccupation est d'instaurer dans sa cuisine un climat plus calme et respectueux. Indispensable, selon lui, à une pratique plus créative du métier.
Auguste Escoffier, une figure de la cuisine, la première star de la gastronomie mondiale, qui reprend vie dans ce documentaire ambitieux d'Arte.
Oui, on sait à quel point on doit tout ou presque à Escoffier en termes de modernisation de la gastronomie. Allègement des sauces et des liaisons, fin des surcuissons, invention de la brigade de cuisine, réinvention du service en salle, soins inouïs apportés aux arts de la table, à la rédaction des intitulés, invention du menu à prix fixe, de la cuisine de palace et j'en passe, création bien sûr de grands plats qui ont marqué l'histoire de la cuisine mondiale, à commencer par la pêche Melba et la poire Belle-Hélène, pour ne citer que les plus connus. En fait, la question c'est presque... qu'est-ce que Auguste Escoffier n'a pas inventé? Mais dans ce documentaire, moi, l'aspect qui m'a vraiment le plus touchée, dont je mesurais pas vraiment l'envergure, c'est la dimension humaine, presque humaniste du personnage, un homme sensible, très heurté par les conditions de travail qu'il a connues au début de sa carrière, quand il démarre comme commis saucier au Petit Moulin Rouge. Comme le dit Pascal Horry, l'un des intervenants que l'on entend au fil du documentaire, notre historien qui est venu chez nous il y a pas très longtemps, il rappelle que c'est un monde d'hommes qui se heurtent, qui crient, qui frappent. Rappelons qu'on cuisine encore au charbon de bois quand Escoffier démarre sa carrière. Carême est d'ailleurs mort, empoisonné par ses émanations. Or, Auguste Escoffier refuse, lui, d'aller ainsi à la guerre tous les jours. Il essaie de fluidifier les rapports entre la salle et la cuisine. L'aboyeur devient annonceur dans les transmissions des commandes. Il abolit le tabac et l'alcool en cuisine. Il veut rendre à ses hommes la fierté d'exercer un métier d'excellence dans de bonnes conditions. Il leur dit « Vous n'êtes pas une main-d'œuvre corvéable à merci ». Et Thierry Marx de conclure, qui dit de lui dans le film qu'il avait une vision holistique de la cuisine et la conscience très forte du lien entre cuisine et société.
Merci, un documentaire sur Auguste Escoffier à retrouver samedi prochain
sur Arte.
Arte et on va déguster XXL, c'est à nouveau dimanche prochain de 9h à 11h avec un thème, le bio est-il dépassé et dépassable? À dimanche prochain si vous avez encore faim.